السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères, en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité donc de nous réunir ce soir dans cette assemblée Bayt min Buyutillah, dans une maison parmi les maisons d'Allah Azza wa Jal, dans cette assemblée où on va parler essentiellement du dîn d'Allah Azza wa Jal. On va essayer, comme notre jeune frère a introduit, de voir un petit peu les nasiha, les différents conseils possibles pour nous redonner un petit peu plus d'impulsion, requinquer un petit peu la foi pour que chaque personne comprenne pourquoi elle a été créée, quel est son chemin et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal attend de lui. Mais avant d'aborder réellement le sujet, il faut savoir que c'est là un grand ni'ma, une grande chance de la part d'Allah Azza wa Jal que de pouvoir se réunir dans une masjid ou dans un endroit, quel que soit le lieu, pour parler du dîn d'Allah. Parce que honnêtement, la seule chose qui nous réunit ce soir, la seule chose qui fait qu'on est là ensemble, c'est le programme. C'est une assemblée, on va parler d'Allah Azza wa Jal. On n'est pas venu là pour les grillades, ni pour les pots d'LGM, ou je ne sais pas autre chose. Il y a une seule chose qui nous réunit ce soir, c'est parler du dîn d'Allah Azza wa Jal, essayer d'avancer dans la religion, essayer de comprendre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que chaque personne qui est là ce soir, c'est quelqu'un de sincère. Chaque personne qui est là de cette assemblée, c'est quelqu'un de mukhlis, de sincère, qui est venu uniquement pour écouter la parole d'Allah, la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le but de mieux comprendre la religion, dans le but d'avancer dans le dîn. Et c'est là déjà une bonne nouvelle, c'est suffisant. C'est déjà suffisant comme bonne nouvelle que de savoir que notre prophète alayhi salatu wassalam nous a annoncé que majtama'a qawmun fi bayt min buyutillah, lorsque des gens se réunissent dans une maison parmi les maisons d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui se passe? Les anges vont les couvrir de la rahma. Les anges vont les couvrir, pardon, de leurs ailes, et la rahma d'Allah Azza wa Jal descend sur cette assemblée. Je pense que déjà, si on a obtenu ça, on a tout gagné de cette soirée, de ce samedi soir. On était mukhlis, on était sincère, on s'est réunis pour Allah, pour apprendre le dîn. On a les anges qui sont présents avec nous, et on a la rahma d'Allah qui descend, qui va couvrir nos cœurs, qui va descendre, qui va nous apporter, inshallah, la sakina. Et cette assemblée, ce genre d'assemblée, c'est la meilleure assemblée qu'il y a de le dunya. Il y a plus d'importance pour Allah Azza wa Jal que n'importe quelle assemblée, que ce soit des ministres, que ce soit des députés, des sénateurs, que ce soit une assemblée où on va tirer au sort dans quel groupe la France va jouer, avec l'Équateur, avec Honduras, avec je sais pas quoi. Quelles que soient les assemblées du monde, on a les plus grandes stars. Ma yahumuna, ça n'a aucune importance. La plus belle des assemblées pour Allah Azza wa Jal, c'est quand on se réunit pour parler du dîn d'Allah Azza wa Jal. Et on prend conscience, ce sont là des rappels, mais extrêmement profitables, pour qu'on se recadre un petit peu et qu'on soit encore plus motivé d'écouter. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a annoncé que quand, comme on est en train de le faire maintenant, on se réunit pour parler de la religion d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala parle de nous dans des meilleures assemblées. Les savants disent que ce sont les assemblées des malaïka. Et qu'à la fin de l'assemblée, il y a la promesse de la part d'Allah Azza wa Jal que l'intégralité des péchés, des petits péchés que les personnes avaient de leur livret de compte, ont été pardonnés. Et dans une riwaya, dans une source de l'imam Ahmed ibn Hanbal, il est même dit que les péchés ont été transformés en bonnes actions. Les péchés ont été transformés en bonnes actions. Maintenant, si on s'arrête à là, au-delà de ce qui va être dit, au-delà du sujet qui va être abordé, qu'on comprenne ou non, que le sujet nous concerne ou non, que c'est un public averti ou un public un peu plus général, déjà qu'on est là avec sincérité, qu'on écoute, qu'on a envie d'avancer, on a tous ses bienfaits, on a ses récompenses, on a les péchés qui sont pardonnés, et ça doit être une source de motivation pour qu'on assiste à toutes les assemblées religieuses. Pas uniquement quand c'est un village ou c'est un truc, n'importe quel majlis, on voit des gens qui parlent du dîn d'Allah Azza wa Jal, qui reste dans le cadre bien sûr du Coran et la Sunna. Du moment que les gens parlent du dîn d'Allah, on sait que ça c'est un des jardins du paradis et que j'ai beaucoup à gagner. Même si on arrive à la fin, quelques secondes, vendredi dernier, là on est samedi, mais vendredi dernier, je faisais un programme ailleurs, il y a un jeune qui est arrivé, on était en train de lire le doua de clôture, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, et il arrive. Du coup je me suis arrêté, j'ai dit, on va dire encore une petite parole, parce que notre jeune frère vient nous rejoindre, et j'ai dit à ce jeune, tu sais, tu as fait le niya, de ta maison pour arriver, pour écouter le majlis, tu arrives à la fin, mais Allah Azza wa Jal est tellement généreux qu'il t'a accordé la récompense de celui qui était là depuis le début. Ça c'est le karam, la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça prouve comment Allah Rabbul Izza aime les gens qui se réunissent pour parler du din, pour parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce soir nous sommes tous les invités. Pas les invités du village de Saint-Louis ou du village de je ne sais quoi, les invités d'Allah. Parce que c'est la maison d'Allah ça. Allah nous invite pour faire la salat en congrégation de Jama'a. Allah Azza wa Jal nous a invités également pour rester quelques instants dans sa maison, pour profiter des rahmas, des sakinas qu'il va envoyer sur les gens de cette localité, de cette masjid. Qu'Allah accepte ce déplacement, qu'Allah accepte chaque personne qui est venue avec une intention sincère et que, inshallah, les paroles qui vont être prononcées viennent de la part d'Allah Azza wa Jal, touchent nos cœurs et nous permettent d'avancer, moi en premier et vous après, ou alors nous tout en même temps, nous permet d'avancer, inshallah, au plus proche pour qu'on soit, qu'on ait une proximité avec notre Seigneur. Et c'est là le but de toutes les assemblées religieuses. Avant d'entrer dans le sujet, ça c'est la deuxième introduction, deuxième point, juste une petite, un petit rectificatif concernant l'affiche. Il y a une petite erreur, une petite faute de frappe sur l'affiche, peu de gens l'ont remarqué. C'était écrit intervenant exceptionnel. C'était pas intervenant exceptionnel, c'est intervention exceptionnelle. L'intervenant, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est l'intervention, c'est le sujet. C'est le mawdou', c'est le sujet qui doit être abordé qui est exceptionnel. On n'arrêtait pas de me moukater sané et dire ah ouais, ben tu dis diaoul exceptionnel. Dis non, on n'est pas compris. C'est l'intervention, le but. Vous vous rendez compte? Dans un même programme, parler des jeunes, parler des fitnas et parler du qiyama. Ceux qui voient les choses en gros ici, c'est des thématiques énormes. En plus, réunir ça en 1h55, ça risque d'être juste. 1h55, c'est pas 1h55. Donc, déjà, c'est des sujets énormes. Mais si on peut, bismillah, développer, on essaie de faire la relation entre ces trois points et dégager quelque chose, ça, bismillah, c'est un mawdou', c'est un sujet exceptionnel qui pourra, bismillah, changer les cœurs, réveiller les cœurs qui sont endormis. L'objectif, c'est de rappeler aux jeunes qui ils sont. Il y a une question d'identité extraordinaire dans notre communauté. On ne sait plus qui on est. Quand on est jeune, on a l'impression que c'est une phase intermédiaire avant d'être adulte, avant d'être plus grand, d'avoir une certaine stabilité, d'être marié, avoir des enfants, être un père de famille, d'accord? Alors que, subhanallah, de notre dîn, être jeune, c'est une étape, on pourrait dire, c'est l'étape la plus importante de la création. Parce que ce qu'Allah Azza wa Jal nous accorde durant la jeunesse, il ne nous l'accorde pas pendant la vieillesse. Certes, nos anciens sont un peu frustrés. Il y en a qui commencent, les bagages, ça va. Non. Dans la vieillesse, Allah a rahma pour nous. Allah a de la pitié pour nous. Allah accorde des choses. Mais le manzila, le degré qu'on peut avoir dans la jeunesse, mes chers frères, ça c'est inexplicable. Et sachant que c'est inexplicable, on va essayer de l'expliquer. On va essayer justement de faire réaliser à toutes ces personnes qui ont moins de 35, moins de 40 ans, quelle place vous avez dans le dîn. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal vous aime? Et quel est le chemin qu'Allah a tracé pour vous? Et attention, dans ce chemin tracé par Allah Rabbul Izza, il y a des pièges que Shaytan essaie de mettre, il y a des tentations, il y a des fitnas, justement, qui a pour but de vous empêcher d'arriver à ce degré énorme annoncé par le prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc le but, c'est de faire la relation avec la jeunesse. Les fitnas, on va dire que la jeunesse, c'est un tracé vers l'âge, on va dire, de maturité et la vieillesse et le décès. Et dans ce tracé-là, vous pouvez soit décoller, soit chuter. Et qu'est-ce qui vous fera décoller? Votre iman, vos a'mal, votre tarbiya, c'est-à-dire votre éducation, l'environnement dans lequel on est, la prise de conscience de qui on est. On est des gens extraordinaires. Quand on est jeune, on est exceptionnel. On occupe une place extraordinaire pour Allah Rabbul Izzah. Si on a intégré tout ça, je jure par Allah qu'on décolle. Mais si on n'a pas intégré, on a pensé que c'est une étape de la vie où on peut se laisser aller, on peut se lâcher, alors là on chute, mais on chute grave. Et même si un jour on se relève, on ne se relèvera jamais comme Allah Rabbul Izza l'a souhaité pour notre existence. Donc l'intervention, le sujet abordé est exceptionnel et non pas l'intervenant. Maintenant, ce qui est exceptionnel, la seule chose exceptionnelle que je vois, ben c'est vous, hein, c'est le public de Saint-Louis. Un public qui nous est très cher, un public mubarak, un public dans une masjid mubarak, encadré par des savants, ulama mubarak, encadré par des responsables, comité mubarak, et on pourrait dire que l'équipe hein, de Saint-Louis, avec son mutawalli, avec son président, avec son directeur madrasa, c'est vraiment One Direction. D'accord? Et c'est vraiment point de direction, les gens ont compris de quoi on parle. Et ceux qui n'ont pas compris, alhamdulillah, Allah vous a préservé. Donc, dans un premier temps, on va essayer de définir ces trois thématiques. Jeûne, fitna et qiyama. Ça n'a pas l'air d'être compliqué, mais j'ai besoin de votre aide. D'accord? Bon, apparemment, c'est interactif, il y a des questions à la fin. On verra s'il y a des questions. Mais il y a des fois où je vous pose des questions, j'aimerais quand même une petite participation. Qui me donne une définition de jeûne? Un jeûne, c'est quoi? Mouad? Amène ça à l'usine à Bitsani avec nous, ça. Hein? C'est quoi un jeûne? Ne dites pas un jeûne, c'est quelqu'un qui n'est pas vieux. Ne donnez pas de définition par opposition. Un jeûne. Alors, certains savants disent que jeûne, c'est jusqu'à l'âge de... À quel âge on est en pleine possession de notre capacité physique, intellectuelle? L'âge des gens du paradis, c'est quel âge? 33. Donc certaines personnes disent que jusqu'à 33, on dit que c'est un jeûne. Et au-delà de 33, on commence à décliner, on commence à être un petit peu fatigué et tout. Donc là, on est un petit peu moins jeune. D'autres savants, et c'est une majorité des savants, et c'est un peu l'opinion qui est reprise par beaucoup de ulama, beaucoup de savants, de ulama, de fundi, de mufti, comme on veut les appeler, c'est la jeunesse, c'est jusqu'à l'âge de 40 ans. Parce que la hikma, la sagesse, c'est à l'âge de 40 ans. Et les anbiya, les prophètes, devenaient donc anbiya, nabi, rasoul, à l'âge de 40 ans. Donc ça ouvre une grande perspective. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être jeune, c'est jusqu'à 18 ans, la majorité. Quand on est majeur, on a 19 ans, mais on a 20 ans, bon là on est plus jeune, là on est à une autre étape. Là, wallah, la jeunesse, sur la majorité des savants, je le répète, c'est jusqu'à l'âge de 40 ans. Du coup, ça nous rajeunit. Du coup, moi je reviens jeune, il y a plein de gens qui se disent que l'humanité croit qu'il est plus jeune, et que donc les vertus concernant les shabab, les jeunes, s'appliquent à moi, alhamdoulilah, donc j'ai encore ma carte de jeûne, j'ai la possibilité d'obtenir les récompenses qui sont promises dans les hadiths concernant les jeunes. Donc déjà on a cadré de qui on parle quand on dit les jeunes. Deuxièmement, fitna. C'est quoi fitna? Parce que si on va développer une thématique et si on ne sait pas c'est quoi une fitna, on va pas comprendre où est-ce qu'on va. Est-ce que fitna c'est azab? Quelqu'un a une réponse? Est-ce que fitna, c'est synonyme de azab, de punition? Dans le Coran, la Ta'ala ne dit pas innama amwalukum wa auladukum fitna. Que vos biens, l'argent, vos enfants, c'est également fitna. Donc, c'est pas azab. Sauf que l'un de Dieu, madame, c'est azab. Non, mais là, on parle de manière générale. Les enfants et tout. C'est-à-dire, le terme fitna, c'est pas punition. Faut bien différencier fitna et punition. Ce sont là deux choses différentes. Fitna, on pourrait, allez, la traduction la plus proche, ce serait une tentation et une épreuve de la part d'Allah Rabbul Izza. Et l'ouratan, dans la langue arabe, quand on parle de fatana, de fitna, c'est comme un tamis. Et c'est quoi un tamis? Comme un passoire. Je sais pas si vous avez déjà vu un tamis, hein, où on met, quelle que soit la chose, il y en a qui recherchent de l'or ou autre chose, de le but d'enlever ce qui est sale, pour garder uniquement ce qui est pur. À travers cette définition, on a une approche du fitna. Le fitna a pour but de distinguer qui c'est qui est dans le droit chemin, qui c'est qui a la taqwa, qui c'est qui obéit à Allah Rabbul Izzah, de celui qui va suivre ses passions, ses pulsions, qui va faire ce qu'il veut quand il veut. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dajjal, c'est le plus grand fitna. Pourquoi? Parce que quand Dajjal va faire tous ces trucs extraordinaires, ces miracles, le pouvoir qu'Allah lui a accordé, ce sera un test, ce sera une épreuve pour les croyants. Et dans cette épreuve, malheureusement, beaucoup de gens vont sombrer, vont croire que ce qu'il fait, c'est vraiment quelque chose de divin, et qu'il a donc des attributs, na'oudou billah, divins, et ils vont le suivre. Alors que les mukhlis, les gens sincères, les gens pieux, les gens qui ont la taqwa dans leur cœur, ils vont reconnaître là ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, avait mis en garde, et donc ils ne vont pas sombrer dans ces fitna. Donc le fitna a pour but de distinguer celui qui reste dans le droit chemin de celui qui va sombrer, qui va suivre ses shahawats, ses pulsions, ses passions, ses envies, tout sauf l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des fitna qui sont d'apparence mauvaise, on a bloukum bil khayri wa sharri fitna, c'est bien ça le verset. Et il y a des fitna qui paraissent comme des choses tout à fait positives, comme ce qu'on vient de dire, les biens, l'argent qu'on a ou les enfants qu'on a. Et l'objectif, pourquoi est-ce qu'on doit absolument comprendre c'est quoi une fitna? L'objectif, c'est quelles que soient les épreuves qu'Allah envoie, quelles que soient les fitnas qui nous entourent, parce que les fitnas peuvent être différents en fonction du contexte, du pays de lequel on vit, d'accord? Des endroits où il y a beaucoup plus de fitnas, il y a des endroits qui ont moins de fitnas. Il y a des époques où il y a eu peu de fitnas, il y a des époques où il y aura beaucoup. Les fitnas peuvent être sur le plan politique aussi. Les fitnas peuvent être sur le plan djinns, tout ce qui a trait à la sexualité. Ou alors les fitnas peuvent être sur le plan financier, hein, des gens qui sont pris dans des engrenages de riba, d'intérêt, autre chose. C'est le fitna pour eux. C'est une épreuve pour voir est-ce qu'ils vont suivre ce qu'ils ont envie de faire, est-ce qu'ils vont suivre le pouvoir de l'argent ou ils vont respecter les ordres d'Allah Azza wa Jal. Et l'objectif, c'est quelle que soit l'épreuve, quel que soit le test qu'Allah envoie, quelle que soit la fitna, on ne s'éloigne jamais d'Allah Azza wa Jal. Jamais le fitna ne doit nous éloigner d'Allah. Autrement, c'est rater l'épreuve. Si à cause du fitna, le fitna ça peut être la musique, le fitna ça peut être une jolie fille, le fitna ça peut être un beau garçon, pour une fille je veux dire, pas pour un garçon. Le fitna peut être quelque chose qu'on écoute, quelque chose qu'on mange, ça peut être quelque chose qu'on consomme. Mais quelle que soit la fitna, la réussir, la contourner, c'est faire en sorte que la fitna ne nous éloigne jamais d'Allah. Et rater l'épreuve, sombrer dans la fitna, c'est que on y entre, on ne peut pas y résister. On entre dans l'engrenage de péché jusqu'à devenir un fasiq, un pécheur endurci à cause de ce péché. Et qu'en finalité, jour après jour, on s'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Et il n'y a rien de pire que quelqu'un qui s'éloigne d'Allah. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui s'éloigne d'Allah jour après jour. C'est pire que quelqu'un qui est malade. C'est pire que quelqu'un qui a une tumeur, qui a un cancer. Et que jour après jour, sa situation se dégrade. Son état de santé dépérit et que ce qui était une tumeur devient quelque chose de plus grave jusqu'à se généraliser et que la personne peu à peu perd ses facultés, on va dire que ça c'est terrible, ce qui lui arrive c'est grave. Oui, c'est grave, c'est une grande épreuve qui touche sa santé basse. C'est un peu réducteur de ma part, excusez-moi, mais on va dire que c'est une épreuve qui touche sa santé et qu'Allah nous protège de ça. Mais quelqu'un qui s'éloigne d'Allah jour après jour, mes chers frères et sœurs, ça c'est les catastrophes. Ça c'est la pire des choses qui peut arriver parce qu'il va perdre l'aide d'Allah, le soutien d'Allah dans ce dunya, et il va perdre l'aide d'Allah, le regard, la compassion d'Allah Rabbul Izza dans l'au-delà et pour l'éternité. Ça c'est la pire des choses, qu'une personne s'éloigne d'Allah Rabbul Izza. Parce que quand on s'éloigne d'Allah de ce dunya, quand on oublie Allah de ce dunya, il y a le verset Nasullaha fanasiyahum. Quand la personne oublie Allah, tout en resituant dans le contexte du tafsir, Allah Azza wa Jal oublie la personne le jour de Qiyam. Si quelqu'un a vécu dans l'insouciance, dans la ghafla totale, Allah Azza wa Jal va l'oublier également le jour des comptes. Tout comme il a oublié Allah de ce dunya, Allah Rabbul Izza va l'oublier, va l'éloigner le jour de Qiyam. Et le jour de Qiyam, Allah, 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 c'est vraiment le moment où on aura le plus besoin de notre Seigneur. Parce que le jour de Qiyam, c'est Al-Mulku Yawma Idin Il-Haqquli Ar-Rahman, l'Ir-Rahman. C'est qu'en ce jour, le jour de Qiyama, la royauté appartient uniquement à Allah. Quand on lit Al-Fatiha, Maliki Yawmiddin, ou Maliki Yawmiddin, ou Qurra sont là, même qu'il y a deux lectures basses. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Malik, c'est-à-dire le jour de Qiyama, Allah, c'est le seul Malik. Dans ce dunya, il y a des moulouks, il y a des rois, il y a des princes, il y a des empereurs, il y a de je ne sais pas quoi. Mais le jour de Qiyama, il n'y a personne qui parle, il n'y a personne qui bouge, il n'y a personne qui fait shafa'a, qui intercède sans l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni, uniquement par l'ordre d'Allah Rabbul Izza. Yawma la dhilla illa dhillu, le jour il n'y a pas d'autre ombre, d'autre source d'ombre ou de tranquillité si ce n'est l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Yawma la yanfa'u malun wala banun, le jour où ni vos biens, ni vos enfants ne vous seront d'une quelconque utilité. Alors qu'on vient de voir tout à l'heure, il y a deux minutes, que innama amwalukum wa auladukum fitna. Vos biens, vos enfants peuvent être une source de fitna. Mais si on a sombré dedans, qu'on sache que le jour de Qiyama, que yawma la yanfa'u malun wala banun, en ce jour, ni vos biens, ni vos enfants ne vous seront d'une quelconque utilité. Donc, le fitna, c'est tout ce qui risque, tout ce qui peut éventuellement nous éloigner d'Allah Rabbul Izza. Et la fitna peut être différente en fonction des tranches d'âge, en fonction du milieu dans lequel on vit, en fonction de l'époque dans laquelle nous habitons. Ça peut être, comme on a dit, politique, ça peut être sur le plan familial et ainsi de suite. Tout ce qui risque de nous éloigner d'Allah. Et la pire des choses, comme on a dit, on le répète, c'est de se voir éloigné d'Allah, de perdre la proximité avec Allah Rabbul Izza jour après jour. Donc déjà, quand on voit cette définition de fitna, vous voyez que quand on parle de fitna, on parle obligatoirement des conséquences de fitna le jour de Qiyam. Déjà, ça nous donne une idée de la prochaine thématique, c'est le Qiyam. Donc quand on parle de fitna, la suite logique, c'est les conséquences de ce fitna. Si on a résisté, alhamdulillah, qu'est-ce qu'on aura le jour de Qiyam? Mais si on a sombré, on est tombé dans le fitna, quelles sont les conséquences le jour de Qiyam? Ce qui nous amène vers la troisième ta'rif, la troisième définition, c'est quoi le Qiyam? Irfan, fais vite. En un terme, c'est quoi Qiyam? Fin du monde? En général, si je pouvais avoir un peu d'eau non glacée, s'il vous plaît, jazakallah khair. Qiyam, en général, on dit fin du monde. Vrai, c'est une partie de la définition de Qiyam, mais c'est fin d'un monde pour le début d'un autre monde. Et pour le début du vrai monde, le monde du Akhira, le monde de l'au-delà. Parce que si on se dit que Qiyam c'est la fin du monde et puis c'est fini, on est tranquille, là wallah, bien au contraire, c'est quand le monde finit, c'est là que les problèmes commencent, et risquent de commencer. Parce que quand le dunya se termine, quand Allah détruit ce dunya, c'est que l'autre dunya va prendre la place. يوم تبدل الأرض غير الأرض. Quand tout va changer, quand Allah Azza wa Jal va, subhanallah, ressusciter al-khalq, la création, pour les faire découvrir, barakallah, fi jazakallah khair, pour les faire découvrir un autre monde. Et le qiyama, c'est le but pour lequel on est sur ce dunya. Le qiyama, c'est le but pour lequel on fait la salat 5 fois par jour depuis qu'on a 13 ans, 14 ans, 15 ans. Le qiyama, c'est le but pour lequel on jeûne le ramadan depuis qu'on est baligh. C'est le but pour lequel on lit le Coran. C'est pour ça qu'on obéit à nos parents. C'est pour le qiyama qu'on s'éloigne de l'adultère et du zina. C'est pour le qiyama qu'on ne boit pas d'alcool, qu'on ne va pas en boîte de nuit, qu'on s'éloigne du haram d'une manière générale. Parce que le moment crucial, c'est quand on se présente devant Allah, al-ardu ala Allah. C'est quand Allah Rabbul Izza va appeler chaque personne par son nom et le nom de son père pour que la personne soit présentée devant notre Seigneur, devant Allah, pour rendre des comptes de l'intégralité des actions que la personne a accomplies depuis qu'il était baligh jusqu'à ce que Malik al-Maut, l'ange de la mort, reprenne son âme. Et à ce moment, soit Allah nous accepte, soit Allah montre qu'il est satisfait de nous, soit Allah nous éloigne de lui. Allah montre qu'il est mécontent de nous. Et Allah montre qu'il est en colère avec ce serviteur. Et Allah risque, possible que si Allah est en colère avec son serviteur, qu'il ordonne aux anges, aux malaïkas, de conduire cette personne déshonorée vers le Jahannam. Et de l'éloigner de la rahmat d'Allah Azza wa Jal. Et les savants disent, imaginez, al-khasara, imaginez la perdition, imaginez le malheur d'une personne qui est le jour des comptes lorsqu'il est présenté devant Allah et se rend compte qu'Allah est mécontent de lui et qu'Allah va l'éloigner de lui. Ça, c'est la pire des choses. Il n'y a rien de pire que le jour de Qiyam, d'être éloigné d'Allah, d'être éloigné de la rahmat d'Allah à cause des péchés qu'on a cumulés sur ce dunya. Et lorsqu'on est devant le tribunal d'Allah, mes chers frères et sœurs, il n'y a plus personne qui peut nous aider. Ni nos amis avec qui on sortait, ni nos contacts de Facebook, ni les proches, ni nos collègues, ni même nos parents, ni notre femme, ni nos enfants. Comme nous dit le verset, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Où la personne va s'éloigner de son propre père, de son frère, de sa maman, de son papa. Bref, même si on avait, mashallah, un lien extraordinaire avec nos parents, avec notre épouse, avec 45, 50 ans, 60 ans de mariage, le jour de Qiyama, l'homme ne voudra même pas voir sa femme. Le père ne voudra même pas voir son fils ou sa fille et vice versa. Parce que quoi? Parce que chaque personne aura à faire face à une situation qui va le préoccuper. C'est se présenter devant Allah, c'est prendre le livret de compte, c'est passer sur le salat. Toutes ces étapes, ce sont les étapes du qiyam. Le qiyam, c'est tout ça, mes chers frères et sœurs. Maintenant, la relation entre ces trois thématiques, entre jeûne et fitna. Quelle est la relation entre jeûne et fitna? La période, la jeunesse, on va dire, pour faire court, c'est la période de fitna par excellence. C'est pas un stéréotype que de dire que quand on est jeune, on est plus sujet aux fitna, on a plus il y a plus de probabilité qu'on sombre dans les fitna, que jeunesse et fitna sont intimement liés. C'est pas un stéréotype, ça c'est une réalité. Parce que c'est l'âge où on a le plus de facultés, le plus grand potentiel sur le plan physique, sur le plan psychologique et ainsi de suite. On est plein de vie. C'est la période la plus faste, on va dire, de la vie d'un être humain, d'un homme ou d'une femme. Mais c'est également la période, une période cruciale. La période la plus cruciale pour un croyant. Je dis bien pour un croyant, c'est la période la plus importante pour lui, mais c'est également la période la plus importante pour Shaitan. Ajib ça. Pour Shaitan, la jeunesse d'un serviteur d'Allah, d'un musulman, de Mohammed, de Fatima, de Aïcha, peu importe, pour Shaitan, c'est également le moment le plus important de la vie de cette personne. Parce que Shaitan, alayhi la'natullah, il sait exactement qu'est-ce que ce jeune va obtenir de la part d'Allah s'il reste sur Sirat al-Mustaqim, s'il reste sur le droit chemin. Et il sait exactement de quoi il est capable de le priver. Et il sait exactement comment procéder pour le priver de cette récompense exceptionnelle. Et ça, c'est vraiment l'aboutissement de l'intervention de ce soir. C'est la place que tout le monde rêve d'avoir sous l'ombre du trône d'Allah, Rabbul Izza. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce que parmi les personnes qui auront l'honneur d'être sous l'ombre du trône d'Allah le jour de Qiyamah, c'est Shabun Nasha'a fi ta'atillah. C'est un jeune qui est resté dans l'obéissance d'Allah. C'est un jeune qui, en fréquentant la société, en vivant comme tout le monde, avec un travail, avec une vie de famille, ainsi de suite, malgré tout ça, malgré les fitnas qui l'entouraient, il est resté dans les limites. Il est resté dans les limites, il n'a pas franchi ce qui est interdit. Il n'a pas mis un pied dans le haram. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait possible, à toutes les époques. Ce jeune-là, il a la promesse d'Allah qu'il sera invité, il sera appelé pour être sous l'ombre du trône d'Allah, yawma la dhilla illa dhillu, comme on l'a dit tout à l'heure, le jour, il n'y aura pas d'ombre, il n'y aura pas d'endroit reposant, si ce n'est l'ombre du arsh, l'ombre du trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc la jeunesse, c'est la période la plus prolifique, la plus importante, pour obtenir cette place sous l'ombre du trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc là, on voit une relation entre jeûne et fitna, on est plus sujet à sombrer dans les fitnas, mais en même temps, celui qui arrive à s'en démêler, celui qui arrive à s'en éloigner, celui qui arrive à passer au-dessus des fitnas, les contourner, il a cette promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, promesse qui vient d'Allah azza wa jal. Relation donc entre jeûne et fitna. La relation entre fitna et qiyama, comme on avait dit tout à l'heure, quand on parle de fitna, l'aboutissement des fitnas, c'est les conséquences ou les récompenses, on va dire, dans notre cas de figure, le jour de qiyama. Le jour de qiyama, c'est là que celui, ce jeune, qui s'est éloigné du haram, de l'alcool, des sorties haram, du zina, de l'adultère, de la boîte de nuit, de la musique, de tout ce qui pourrit un petit peu notre jeunesse, consommation de stupéfiants ou autre chose, ce jeune qui, par la grâce d'Allah, il s'est toujours protégé, le jour de qiyama, il va réaliser comment, subhanallah, ce sacrifice était important. Qu'est-ce que ce sacrifice lui a apporté? Le fait de rester éloigné du haram, alors que ses amis, le samedi soir, ils vont à droite, ils vont à gauche, ils vont dans des endroits haram, lui, il a toujours resté en retrait par rapport à ça, même s'il y a des fois où on se moquait de lui, on disait que lui, il est un peu arriéré, il est coincé, ou je ne sais pas quoi. Mais le jour des comptes, lorsqu'il voit ces mêmes jeunes, ces mêmes personnes qui ont passé leur jeunesse dans le haram, même si après ils ont demandé tawba, mais ce qui est fini, est fini. Et là, il y a une nuance ajib, et c'est un petit peu complexe à comprendre. Les savants disent, vous savez que inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah azza wa jal est tellement clément, tellement miséricordieux, qu'il est capable de pardonner tous les péchés. À l'exception du shirk, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner tous les péchés à partir du moment où on est sincère, on réunit les conditions. Mais le pardon des péchés, c'est un fait. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas rattraper, c'est le temps perdu. Une personne qui après l'âge de 40 ans, 50 ans, où il devient un peu plus sage, il va obtenir la hidayah, la guidée de la part d'Allah, se rend compte de ses erreurs de jeunesse. Et là, il décide de faire marche arrière et de retourner vers la religion, de commencer à fréquenter la masjid, de rattraper ce qu'il a raté comme salat, comme somme, comme carême et ainsi de suite, recoller les morceaux, si ses parents ou membres de la famille sont encore vivants, essayer de renouer les relations. Bref, quelqu'un qui retourne vers Allah sincèrement, sincèrement, on ne doute pas une seconde de la sincérité, à l'âge de 50, 60 ans, il y en a, oui ou non? Il y en a, mashallah, des gens qui à un certain moment se rendent compte de l'erreur, de par quoi ils retournent vers Allah. Allah va leur accorder le pardon, ça il n'y a pas le moindre doute. Mais on ne rattrape jamais le temps qui est perdu, le temps qui est passé. Parce que cette étape, la jeunesse, ils n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas passé cette étape de l'obéissance d'Allah. Même si par la suite, ils deviennent les meilleurs des hommes, inshallah, et ils meurent avec tawhid, avec tout ce qu'il faut, alhamdulillah, vont être acceptés par Allah. Mais cette phase, depuis 15 ans jusqu'à 25, 30, 40 ans, où ils n'ont pas été réglo par rapport aux ordres d'Allah, ça, on ne peut plus rattraper. Ils ne peuvent plus rêver d'avoir une place sous l'ombre du trône d'Allah par rapport à la jeunesse. Ça, c'est plus possible. Maintenant, par rapport à d'autres qualités peut-être, et Allah est clément et miséricordieux et généreux, mais ce qu'ils ont raté par rapport au Shabbat, par rapport à la jeunesse, c'est quelque chose qu'on ne peut plus, on ne peut plus jamais rattraper. Et donc, les personnes vont se rendre compte que, subhanallah, les sacrifices qu'on a faits sont payants. Allah nous accorde beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer. Tandis que ceux qui ont malheureusement sombré de l'effetna, ceux qui ont suivi le nafs, leur pulsion, ceux qui ont suivi tout le monde, ce que les gens faisaient, je faisais. Quand on disait il faut faire ça, on fait ça. Quand c'est ça la tendance, la mode, telle chose, ben on le fait sans se soucier des limites du halal et du haram. Ben la relation de fitna et qiyama, c'est le retour de bâton, les conséquences. Et là la personne se rend compte que tout ce que j'ai fait durant ma jeunesse, c'était que des actes de perdition, et c'est là que la personne va regretter. Mais dites-moi, est-ce que le jour de Qiyama, al-Nadam, est-ce que les regrets, est-ce que les remords vont être d'une quelconque utilité? La wallah. Dites-moi, est-ce que les remords, les regrets, dans quelle action les regrets sont extrêmement importants? Pour Tauba. Ça promet un cadeau pour celui qui répond, moi, économise mon cadeau. Pour le Tauba. Pour obtenir le pardon de la part d'Allah, la première des conditions, c'est avoir des remords. Et est-ce qu'on peut tricher avec les sentiments? Non. On peut tricher avec le kafni, mais t'as joué le kafni blanc, t'es un grand bouzouk, t'es en forme. Ou là, une grande barbe et tout, mashallah, ça c'est un cheikh ou l'islam, un homme pieux. On peut tromper les gens. Et des fois, dans certaines assemblées, on a dit que, Inch'Allah, je ne sais pas si vous voulez le dire, mais il y a des fois où il y a des gens avec l'aspect religieux, c'est les plus grands arnaqueurs. Et à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, carnaval est fini, enlève ton déguisement de musulman. C'est pas l'apparence de musulman, c'est un déguisement, enlève-le, c'est bon, c'est fini. Il y a des gens qui, avec l'apparence du croyant et tout, mais dans les affaires, dans les paroles données, dans les akhlaq, dans le comportement, c'est les pires des escrocs. Je généralise pas, mais il y en a des spécimens comme ça. À ces gens-là, on a envie de dire que c'est un déguisement, mon frère. Pourquoi tu t'es déguisé en musulman? Pourquoi tu t'es déguisé en homme pieux? Allez, c'est fini le carnaval ou le je ne sais pas quoi. Allah musta'an. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, c'est peut-être pas très bien ce que j'ai dit là, hein, faut pas qu'on soit vexé, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Hein, il y a des fois où on se rend compte que, et donc, ce qu'on disait, à ce moment-là, la personne se rend compte, la personne qui a sombré dans les fitnas, pour revenir au sujet parce que sinon on va trop s'éloigner, la personne se rend compte que, subhanallah, tout ce que j'ai fait, c'était que source de perdition. Et ces choses qui me procuraient, soi-disant du plaisir, c'était en fait des produits d'appel vers le jahannam. Des produits d'appel vers le jahannam. Et là, il y a un hadith de lequel le prophète avait dit que l'ange Jibril avait dit que lorsqu'il a visité l'enfer, et puis on revient sur le remords, hein, c'est revenu, Jibril a dit que lorsqu'il a visité l'enfer, il a vu que, et ça c'est hadith de base, à chaque fois qu'on est à un carrefour de la vie, quand on choisit entre le bien et le mal, on doit se souvenir, il y a plein de hadiths qui nous permettent de revenir, mais entre autres ce hadith de Jibril qui dit que lorsqu'il a visité l'enfer, il a vu que toutes les choses qui appellent vers l'enfer, ce sont des plaisirs de ce monde. Et il s'est dit, il a dit avec Allah, personne ne pourra échapper à l'enfer. l'ange Jibril, dans sa logique, on va dire, quand il lui connaît la faiblesse de l'homme, il connaît la faiblesse, il connaît la nature, pas besoin de dire la faiblesse, il connaît la nature humaine, tout simplement. L'homme, inna nafsa la ammaratum bis, en général, on tend vers le péché, vers les fitnas, vers le mal. Quand, sachant la nature de l'homme, et ayant vu tous les péchés, les produits d'appel vers le Jahannam, il a eu cette crainte qu'aucun être humain n'échappera au Jahannam, parce que peu d'êtres humains peuvent s'éloigner des plaisirs illicites de ce dunya. Et ce jour des Qiyama que la personne se rend compte que ce que j'aimais, hein, les fitnas qu'on a cités tout à l'heure, toutes ces choses haram, c'est en fait des produits d'appel vers le Jahannam. Et comme on dit tout à l'heure, les remords, est-ce que un nadam, les remords ont un quelconque intérêt le jour de Qiyama, quand les gens vont voir que ma jeunesse, je l'ai passée tous les samedis soirs dans les boîtes de nuit. Et qui dit boîte de nuit dit consommation d'alcool. Qui dit boîte de nuit dit fille, dit tantine, dit parfois même des gars, parce que non, je ne sais pas dans quel sens on va, et ainsi de suite. Dans tous ces fitnas, dans tous ces harams, et combien de personnes ont essayé de me convaincre? Combien de molissables, combien d'anciens, de fundi, de bakoko, de chouyour, de personnes sages, de hakim, ils ont essayé de me ramener vers le droit chemin, d'ouvrir mes yeux. Mais pour moi, ça, c'était la meilleure des choses. C'est avec ça que je trouvais le plaisir. C'est avec ça que je pouvais m'affirmer. Je trouvais, quand j'étais à la villa, j'étais bien. Quand j'étais là-bas, vraiment, je me sentais bien avec mes amis et toutes les activités qui viennent avec. Allah musta'an. Et là, la seule chose qui va remonter, c'est an-nadam, les remords. Et les remords, comme l'a dit le jour de Qiyama, n'ont aucun intérêt. Alors que dans ce dunya, pour obtenir le tawbah, voyez la nuance, pour obtenir le pardon de la part d'Allah, la première étape, c'est les remords, parce qu'on ne triche pas avec les sentiments. Quand on a des remords, c'est qu'on est sincère. Et Allah, il voit cette sincérité de nos cœurs. Quand un serviteur a des remords, c'est là qu'Allah, Azza wa Jal, accepte son tawbah, parce qu'il a reconnu ses erreurs, et il veut retourner vers Allah. Alors que le jour de Qiyama, les mêmes remords n'ont plus aucun intérêt, parce que les règles du jeu ont changé. En fait, le jeu est terminé. Le jeu est terminé. Les règles du jeu, c'est de ce dunya. Si vous faites une erreur, il y a telle possibilité de vous rattraper. Mais quand Malik al-Maut a repris l'âme, c'est fini. Il n'y a plus rien qu'on peut apporter de notre hissab, ni rien. Allah musta'an a enlevé. Maintenant, on va terminer, on est encore dans l'introduction. Allahu Akbar. La relation maintenant entre les jeunes et leur qiyama, ben on va dire que la jeunesse est une étape incontournable du qiyama. Donc j'avance pas tant que quelqu'un m'explique pas comment est-ce possible. Imran. La jeunesse est une étape incontournable du Qiyam. Compliqué là. Le monde est mort 95 ans ou 102 ans. Et quel rapport avec la jeunesse? Alors? Pas exactement. Mouad. Je dirais que le nom de monde connaît. Irfan. Hein? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que personne ne franchira l'étape, une des étapes du Qiyama, tant qu'il ne répondra pas à 5 questions. Personne. Personne ne franchira cette étape du Qiyama tant qu'elle ne répondra pas à 5 questions. Et parmi ces 5 questions, an shababihi fima abla. Comment est-ce que tu as passé ta jeunesse? Donc, si je sois mort à 30 ans, 50 ans ou 95 ans, une des questions incontournables, parce que le prophète me dit, personne ne franchira cette étape sans répondre à ces 5 questions. Une étape incontournable de l'au-delà, c'est la question concernant an shababihi fima abla, sa jeunesse, comment est-ce qu'elle a passé sa jeunesse. Donc, nous voyons la relation intime qu'il y a entre Shabab, entre la jeunesse, et le Qiyama. Et l'autre relation, c'est le rang exceptionnel. Celui qui a bien répondu à cette question, celui qui a répondu de manière satisfaisante, qu'il a passé, mashallah, sa jeunesse de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. On a vu tout à l'heure, c'est la plus belle des récompenses pour cette étape de l'au-delà, c'est d'être sous l'ombre du trône d'Allah Rabbul Izzah. Alors, et c'est ce jeune homme ou cette jeune femme qui, lorsque ses amis disaient « je m'éclate, je me lâche » ou autre chose, lui, il se dit « je me protège ». Je continue à vivre comme tout le monde, je ne m'isole pas, on ne devient pas quand même des assets ou autre chose. On vit avec les gens, mais on reste éloigné du haram. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait possible. On peut avoir une vie normale, travailler, avoir une situation, avoir une vie de famille ou autre chose, tout en restant dans les limites et ne pas sombrer dans le fitna, ne pas sombrer dans le haram. Donc, jeunesse, fitna et qiyama, ça peut être un magnifique tremplin pour beaucoup de croyants, pour avoir la proximité d'Allah le jour de qiyama. Mais ce triangle, ça peut être, on peut dire, un triangle des Bermudes, malheureusement, où beaucoup de jeunes ils vont sombrer, beaucoup de jeunes vont se perdre, et quand ils se sont perdus, des générations se sont perdues dans cette étape, et il y en a beaucoup, malheureusement, qui vont continuer à se perdre. Maintenant, un raccourci, on va dire un petit peu réducteur, un petit peu malsain, c'est ce qu'on entend parfois les anciens dire, dit que oui, ben le jeune là, il fait rien que pécher. Maintenant, il fait tout ce qu'il a fait, il n'est pas bon. Maintenant, il va goûter ça, le jour qu'il y a un maître. Ah, ça, c'est un raccourci qu'on n'accepte pas. Il y a des anciens, peut-être des gens un petit peu des puristes, un peu, qui disent que fais avec même péché, fais avec même. Tombe dans le fitna, le jour qu'il y a un maître, on va voir quelles sont les conséquences. Alors, déjà, là, on les met en enfer avant le jugement dernier. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, si on dit ça, c'est qu'on oublie qu'Allah guide qui il veut. Il y a des fois aussi des gens pointent du doigt les jeunes, disent voilà, ils font telle chose et. On ne connaît pas Jahannam et tout, mais on oublie qu'Allah guide qui il veut, quand il veut. Et des fois, des gens, ils sont à l'extrême opposé, et du jour au lendemain, subhanallah, ils retournent vers la religion, ils retournent vers ils trouvent la guidée, et on dit que, là, on réalise que la guidée, elle est uniquement dans les mains d'Allah. Et on oublie également qu'Allah, Azza wa Jal, est pardonneur, et Allah est miséricordieux. Moi, je préfère utiliser ces trois notions d'une autre façon, et on pourrait dire que c'est le résumé de l'intervention, et c'est, en fait, c'est une attitude qu'on va essayer, d'adopter. C'est vraiment une philosophie qu'on doit essayer d'intégrer, vivre selon ce principe que, certes, les jeunes sont les plus exposés aux fitna. Et certains vont malheureusement succomber aux tentations et d'autres vont s'élever grâce à cette période critique qui est la jeunesse et grâce aux fitna. Ajib ça. Il y a des gens qui, grâce aux fitna, ils vont s'élever, ils vont obtenir les plus hauts grades. Pourquoi? Parce qu'ils sauront comment contourner les fitnas, comment s'en éloigner. Ils vont faire les bons choix. Ils vont décider de faire passer l'amour pour Allah avant ces fitnas, avant les péchés. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Quand on a le choix entre quelque chose qui est haram et le faire ou ne pas le faire, on se dit que je ne peux jamais faire passer une pulsion, une envie avant l'amour d'Allah, avant mon amour pour Allah. Et donc, celui qui fait passer son amour pour Allah avant n'importe quelle chose, mais on va dire que ces gens-là, grâce à leur jeunesse, et grâce aux fitna également, ils vont s'élever, ils vont avoir les plus hauts grades sous l'ombre du trône d'Allah, Azza wa Jal, le jour de Qiyama, et ils vont réaliser le jour des comptes que ce qu'Allah leur avait promis, subhanallah, c'est démesuré, c'est vraiment exceptionnel. C'est cette attitude positive qu'on doit essayer d'adopter. Faut pas qu'on sombre dans une fatalité, se dire que quand on est jeune, c'est normal de faire des péchés. Non. Non, c'est pas normal. Il y a plus de risques, oui. Shaitan est plus actif, oui. Mais ce n'est pas une fatalité. Il faut qu'on enlève ça de notre tête, de notre esprit, que quand on est jeune, il est normal quand on est jeune de faire des péchés. J'ai même entendu quelqu'un, une fois dire, quelqu'un de religieux, parler d'un cas de péché qu'on n'a pas cité, dit que oui, mais ne tout à fait des péchés quand on était jeune, après il demande taouba. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Des gens très sérieux, en parlant d'un péché, dit que oui, ben laisse ça, ben non, il faut pas être trop dur. Ne tout à fait gouna quand on était jeune, mais après il revient ça, après il demande pardon. Là, je suis pas d'accord. Il faut pas rentrer dans cet état d'esprit de dire que plus tard il va retrouver la guidée, plus tard ça va aller mieux. On ne condamne pas la personne, mais on essaie de faire comprendre aux jeunes que ce n'est pas une fatalité, que bien au contraire, on peut s'en sortir dès maintenant. On peut se détourner du haram dès maintenant, et c'est en se détournant du haram dans la jeunesse qu'on peut obtenir les plus hauts grades auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et intégrer cette notion-là, ça ne peut pas venir avec des mises en garde. C'est pas avec un discours d'avertissement où on va brusquer la personne, on va essayer de perturber un petit peu son rythme de vie, de faire comprendre que tu es dans le haram, c'est mauvais ce que tu fais, tu te condamnes, il y a tel azab, le jour de Qiyama. C'est pas de cette façon qu'un jeune qui est un peu dans le fitna va revenir dans le droit chemin. Abadan. parce que psychologue, hein, il y a plein de gens qui sont psychologues aussi, psychologues disent que dans cette étape de la jeunesse, là, à partir de 15 ans, l'adolescence, d'accord, tu sais, les Français, ils ont inventé plein de termes, l'adolescence, préadolescence et tout, tout ça, c'est pour cautionner les erreurs. Il dit que dans l'adolescence, jusqu'à tel âge, le jeune, jusqu'à la maturité, ce jeune a besoin de s'affirmer. Il a besoin de faire des choix, parfois même aller à l'encontre du courant pour montrer qu'il existe, pour affirmer son identité en Amstern. Et donc ils disent qu'à cette étape-là, si on va essayer de contraindre ces gens à faire telle chose, on va aller au choc frontal, ça ne marchera pas. Et là, on n'est pas seulement d'accord. La meilleure façon pour qu'on intègre la notion de fitna, la nécessité de rester dans le droit chemin, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'on est si important pour Allah. Ajib, ça. Hein? Avant de penser au châtiment, aux mises en garde, essayez de comprendre quelle place nous avons pour Allah. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal aime autant ces shababs, aime autant ces jeunes, et qu'est-ce que ces shababs, qu'est-ce que ces jeunes ont eu l'occasion d'accomplir durant l'histoire de l'islam. Si on se retourne vers l'histoire des sahabs, l'histoire des tabi'in, on se rend compte que 80% de l'histoire de l'islam a été écrit par des jeunes, par leurs actions, par leur courage, leur bravoure et par leur iman. Donc on se rend compte qu'on vaut quelque chose. On a une place auprès d'Allah. On vaut mieux que ça, que plutôt que d'aller en boîte de nuit, d'aller se saouler, d'aller se shooter et d'aller se, je ne sais pas, autre chose, un peu vous comprenez, on est capable de faire des choses exceptionnelles, extraordinaires, comme les pieux prédécesseurs l'ont fait pour obtenir les plus hauts grades, au rang près d'un. C'est en réalisant la place qu'Allah nous a réservée qu'on va réellement comprendre le danger des fitnas et comprendra les bonnes décisions durant notre vie. Maintenant, il faut savoir également qu'il y a le facteur jeune, et à notre époque, hein, le discours est un peu plus ciblé sur 2013-2014, d'accord ? Il y a également le facteur fitna en rapport avec le temps. On n'a pas choisi de vivre en 2014. Certainement, si on était né en 1800, en 1850, en 1900, notre jeunesse, elle aurait passé avec moins de sources, de turpitude, de shahawat, de péché, certes. Parce que plus l'époque avance, plus l'humanité va sombrer vers le haram, vers le péché, et ça c'est les petits signes de Qiyama, où il y aura une dépravation des mœurs, il y aura de plus en plus de péchés qui vont être accomplis. Maintenant, il y avait pas mal, on a une petite liste de péchés, de perte de iman, de recul de foi, de relations superficielles avec le Coran qui vont apparaître à la fin des temps, l'absence de da'wah, on peut même plus inviter vers le bien, interdire le mal. Bref, ce sont des choses que le Prophète a annoncées, et quand on vit ces époques, et Allah seul sait si on n'est pas vraiment, on n'est pas en plein de cette époque, ben dans ces situations-là, on a une faiblesse généralisée chez les croyants. Et donc là, de ces moments-là, rester accroché au din, ça devient encore plus dur. Parce que là, on ne parle pas des péchés, là. On parle d'un recul de la foi d'une manière générale. On parle d'un recul dans les relations avec le Coran. C'est le cas de nos jours. La plupart des personnes qui ont un attachement avec le Coran, ils ont un attachement, et je ne juge personne, ils ont un attachement de façade avec le Coran. Amener un grand qari, amener un hindaoui, amener un... Je sais pas quoi, là tout le monde est là, le Coran, on crie Allah, 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 on est heureux, on est content, et on a la sensation que nous sommes des ahl al-Quran alors qu'on n'a rien développé dans une relation avec le Coran. Et c'est vraiment, Allah musta'an, une spécificité de cette génération et des générations qui est un petit peu avant. On est dans une époque où vraiment on voit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de qurra et peu de savants. Déjà, les gens, ils vont avoir une relation avec la lecture, le tajwid, la prononciation, et pas une relation directe. Le cœur ne sera pas lié au Coran. Bref, on est en plus d'avoir les fitnas, les péchés, on vit vraiment cette époque qui est la plus proche de la venue de Al-Mahdi, de Dajjal et de Al-Mahdi, ainsi de suite. Et donc, la pratique de la religion devient encore plus difficile. Donc, c'est difficulté sur difficulté. Mais vous savez, plus il y a des difficultés, plus la récompense est grande si on arrive à s'en sortir. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Touba lil ghuraba. Bonne nouvelle donc à ces personnes étranges, parce qu'il dit que la religion elle a commencé étrange et elle retournera étrange. Étrange pourquoi? C'est lorsque les premiers musulmans ont affirmé La ilaha illallah, aj'al al-alihata ilahan wahida. Lorsqu'ils ont affirmé qu'il y a un seul Dieu, qu'il faut prier, qu'il faut se prosterner devant Allah, les gens ils comprenaient pas, ils voyaient ces gens-là comme des personnes étranges. Et à la fin des temps, c'est-à-dire à peu près maintenant et dans les années à venir, quand quelqu'un pratique sa religion, c'est vraiment quelque chose de rarib, c'est vraiment quelque chose d'étrange. avec l'émergence de l'islamophobie, hein, avec tout ce qui se dit sur la religion, être régulier dans ses a'mal, dans ses actions, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile. Donc c'est une difficulté en plus des fitnas qui se trouvent autour de nous. Et donc la récompense sera encore plus grande auprès d'Allah. Là, on est en train de zapper des étapes parce que on devait développer chacune de ces thématiques. Et je crains que si on développe, ça va être un peu plus long, ça va plus être un village de Saint-Louis, ce sera la ville ou le monde de Saint-Louis. Vraiment, ce sont trois thématiques que vous avez rassemblées dans une intervention. On n'arrivera jamais à s'en sortir, à produire quelque chose en si peu de temps. Maintenant, concernant les fitnas qui nous entourent. Là, on a vu ce qui, malheureusement, ralentit notre progression vers le dîn. Maintenant, les fitnas réelles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait annoncé que la plus grande des fitnas qui n'a jamais existé, c'est fitnatun nisa, la fitna des femmes. Tout ce qui peut détourner un homme du droit chemin, c'est les pulsions, c'est sa sexualité, c'est ses rapports en dehors du mariage, en dehors du cadre du halal. Ça, c'est vraiment la plus grande des fitnas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé qu'à la fin des temps, il y aura des femmes qui sont kasiyat, ariyat, des femmes qui sont plus nues qu'habillées. Et Allah seul sait si on est vraiment à cette époque. Et on peut dire que réellement, il n'y a jamais une époque où il y a autant de fitnas concernant les femmes, concernant tout ce qui a trait à la sexualité, dépravation des mœurs. Parmi ces fitnas, et maintenant, bon, on va pas, on avait une certaine manière de développer les thématiques, mais vu le temps, on va pas pouvoir le faire. On va juste citer une fitna et une source de récompense, d'accord? On va se limiter à ça. C'est un forfait réduit. Quand le prophète alayhi salatu wa salam annonce que cette fitna, elle existe, et elle va s'amplifier jusqu'à la fin des temps, alors moi, croyant, musulman ou musulmane, et là, ça va dans les deux sens. Quand Allah Azza wa Jalla dit aux musulmans, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَرُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, le verset qui suit, قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَرُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, autant l'homme doit se contrôler par rapport à une femme, c'est dans les deux sens. Il y a des femmes aussi qui ont pas mal de pulsions et tout, d'énergie. Et donc, la femme aussi doit faire en sorte de se contrôler par rapport aux fitnas des hommes. Donc, c'est al-jinn, ça, c'est dans les deux sens. Maintenant, quelle est la lueur d'espoir? Quelle est la promesse pour la personne qui, subhanallah, arrive à résister? Le professeur Sam avait dit que fala yustahya yawmadi minazina, viendra une époque où accomplir l'adultère deviendra quelque chose de tout à fait normal. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam explique que celui qui arrive déjà à contrôler son regard, en annonçant que le regard est une flèche masmoum, est une flèche empoisonnée parmi les flèches de Shaytan, et que dans d'autres hadiths, le prophète sallam dit que celui qui arrive à se détourner d'un haram par amour pour Allah, Allah Rabbul Izzah va lui accorder quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, c'est la fraîcheur de la foi. Al-ladha fil a'mal as-salihah. Que quand la personne, subhanallah, elle aura tawfiq d'accomplir les bonnes œuvres, et quand la personne accomplira les bonnes actions, elle y trouvera une sakina. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Il y a plein de gens qui accomplissent les bonnes actions de façon rituelle. On le fait parce que tout le monde le fait. Il y a même des gens qui vont faire le umrah, ils font le tawaf, et ils ont la tête ailleurs. Ajib ça, oui, ça existe. Ils font le tawaf, ils sont près de la Kaaba, mais la tête est ailleurs, ils sont en train de penser à autre chose. Il n'y a pas, pardon, il n'y a pas de dévotion, il n'y a pas de concentration. On ne ressent pas la chaleur du iman. On ne ressent pas la force, la spiritualité, alors qu'on est dans les meilleurs endroits, on est en train d'accomplir les meilleures des actions. Ça me dit que celui qui arrive à s'éloigner du haram uniquement par amour pour Allah, Allah lui accorde le plaisir, la jouissance spirituelle dans les bonnes œuvres. C'est exactement ce qui animait la vie des sahabas. Qu'est-ce qui fait que pour un sahaba, la plus belle des nuits, c'est quand on passe une nuit dans le qiyam ou l'ayl? Alors que pour nous, la plus belle des nuits, là on va entendre tous nos fantasmes, j'aimerais avoir ça, telle chose. Mais pour les sahabas, la plus belle des nuits, c'est une nuit passée dans l'obéissance d'Allah, dans le qiyam ou l'ayl, de le tahajjud. Parce que ce qu'ils obtenaient à travers les bonnes actions, c'était une source de jouissance extraordinaire. L'élévation spirituelle qu'ils avaient dans les bonnes œuvres, c'était vraiment quelque chose qu'Allah leur avait accordé. Et celui qui s'éloigne du haram uniquement par amour pour Allah, Allah azza wa jalla lui fera goûter une partie de ce ladha, ce plaisir qu'il y a dans l'obéissance, dans le ta'a, dans les bonnes œuvres. Et parmi donc ces fitnas également, il y a ce qu'on appelle les fitnas en rapport avec ce qu'on consomme. Ça veut dire qu'à la fin des temps, la consommation d'alcool va se généraliser. Donc, à une époque où, lorsqu'on parlait d'alcool, on se disait que oui, mais ça, c'est un discours qui concerne d'autres personnes. Maintenant qu'on entend, Allah musta'an, malheureusement, ce qui se passe avec nos jeunes, hein, jusqu'à où ça va, en fait, ça va, il y a quasiment plus de limites, on se rend compte que l'alcool fait partie des fléaux, hein, qui touchent, hein, de plein fouet nos enfants, notre communauté. Que les parents sachent ou non ce qui se passe, consommation d'alcool, de stupéfiants ou autre chose, malheureusement, ce sont des choses qui se sont également généralisées. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il y a un hadith de l'imam al-Tabarani, rahimahullah, qui est magnifique. Et pour résumer la résistance face aux fitna, il dit que celui qui vit à une époque semblable, le hadith est long, il décrit plein de fitna, et malgré cela, la personne reste ferme dans son dîn, wa amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar, et que la personne propage son dîn, invite vers le bien, interdit le mal, alors Allah Rabbul Izzah va lui accorder falahu ajru 50 mimman sahibani wa amana bi wa saddaqani abada. Allah Azza wa Jalla lui accordera la récompense de 50 parmi nous. Et les sahabas demandaient au prophète d'Allah 50 parmi eux. Le prophète dit non, 50 parmi nous, c'est-à-dire 50 parmi les sahabas, parmi ceux qui ont été proches, ceux qui ont été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'étrange, parce que le prophète avait dit une fois que j'aimerais rencontrer mes frères. Le sahaba dit au prophète d'Allah, nous sommes là, nous sommes tes compagnons. Le prophète dit que non, vous êtes mes sahabas, mes compagnons. Mes frères, ce sont des personnes qui vont venir après, qui vont croire au wahi, qui vont m'obéir, qui vont suivre mes ordres, qui vont suivre les ordres d'Allah, alors qu'ils ne m'ont pas vu, alors qu'ils n'ont pas vu la révélation descendre. Ce sont eux véritablement mes frères. C'est-à-dire qu'à travers ces différents hadiths qu'on est en train de citer, les savants, ils expliquent que ce n'est pas une fatalité que de vivre à une époque où il y a des fitnas. Certes, on peut y sombrer, mais si on arrive à s'élever, à s'en éloigner, subhanallah, la personne va atteindre des degrés que jamais elle ne pouvait imaginer. Et plus on est exposé, plus la récompense qu'Allah Rabbul Izzah peut accorder est énorme. On citera trois exemples, je pense qu'on va s'arrêter à là, on a couvert les 55 minutes. On va citer trois exemples. Regardez Yusuf alayhi salam. Regardez Yusuf alayhi salam, quand il a reçu les avances, hein, de cette princesse, Yusuf alayhi salam avait toutes les qualités, il avait les atouts étaient de son côté. Et il aurait pu sombrer dans le fitna, parce que c'était un jeune homme d'une beauté extraordinaire et le péché était caché. Le péché était caché. Si, on ne dit pas si parce que Allah protège toujours ses anbiya, ses prophètes des péchés, mais imaginez que quelqu'un de cette situation avait fait le zina à ce moment précis, le péché aurait été en secret. Personne n'aurait su. Il n'y a que les circonstances du péché étaient parfaites. Les circonstances étaient réunies pour que le haram aurait pu être accompli de la meilleure des façons, mais il s'en est détourné par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jal. Regardez également l'histoire de ces trois jeunes qui étaient dans la grotte. Vous connaissez l'histoire de la grotte et que il y a une éboulie, d'accord, ils ne pouvaient plus sortir, et ils se sont dit qu'on va invoquer Allah par l'intermédiaire d'une bonne action qu'on a accomplie à un moment de notre vie. Et parmi ces trois jeunes, il y a un qui a dit que j'ai toujours été amoureux d'une fille. Soit c'était sa cousine, si je ne me trompe pas. J'étais éperdument amoureux de cette personne et je lui faisais des avances. Et elle m'a toujours refusé. Jusqu'à une époque où il y a eu famine, elle est atteinte de pauvreté, et là elle avait besoin d'argent, et elle s'est dit que je me livre à toi contre telle somme d'argent. Et là pour lui c'était le plus grand bonheur. Son rêve va enfin se réaliser, et il donnait cette somme à cette personne, et dit qu'au moment où j'allais faire le haram, et les termes du hadith ont d'une précision, au moment où j'allais accomplir le haram, elle m'a juste dit un mot. Ittaqillah, crains Allah de ce que tu vas faire. Et ce que tu vas faire, fais en sorte de ne jamais le faire d'une façon illicite. Il dit que là, il y a eu un retour de iman. Alors que c'était son rêve, pour ne pas dire son fantasme. Au moment où il peut le réaliser, librement, péché caché, accessible, où personne ne va faire de rapport ou ne va le blâmer. À ce moment, la seule chose qui l'a empêché d'accomplir le haram, c'était la crainte d'Allah. Et c'est pour cette, ce geste, ce sacrifice. Voilà, c'est pour ce sacrifice qu'Allah Azza wa Jal a accepté la vie de cette personne et qu'ils ont été délivrés de cette situation difficile. Ça prouve que l'action qui comptait le plus dans toute sa vie, l'action qui a été le plus aimée par Allah durant toute sa vie, c'est ce moment où il a su se détourner du fitna uniquement par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jal. Et enfin, voyez également cette personne, parmi les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que رَجُلٌ دَعَتْهُمْ رَأَتُنْ. Il y a une personne qui reçoit des avances de la part d'une jeune femme belle, une jeune femme noble. فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. Une personne qui peut faire le zina avec une personne très belle, une personne de la haute société ou autre chose, mais que la personne s'en éloigne uniquement par amour et par crainte d'Allah. Et par rapport à ce sacrifice, Allah va l'inviter sous l'ombre de son trône. C'est-à-dire que les autres bonnes actions que la personne a accomplies durant sa vie, là, c'est pas ces actions-là qui ont été retenues par Allah. C'est cette action-là. Et les savants disent que accomplir une bonne œuvre, c'est bien, mais plein de gens peuvent faire de bonnes actions. Mais s'éloigner d'une fitna, s'éloigner de quelque chose de haram qui est accessible, ça, c'est la plus grande preuve de foi. Et c'est là la grande épreuve. C'est là-dessus que très souvent on est jugé. Et certains savants disent, là, excusez-moi, je mélange du début jusqu'à la fin du programme, on fait un mélange pour qu'on s'en sorte, pour qu'on arrive à une conclusion, d'accord? On en est à 20% du programme, j'ai mal géré mon temps. Certains savants disent, voyez, même pour la réussite du dunya, comment est-ce qu'Allah a ouvert les portes de la réussite du dunya au prophète Yusuf alayhi salam? Quel fut son rang sur le plan dunyaoui, sur le plan matériel? Il est devenu ministre d'Égypte, oui ou non? Alors qu'il est passé de l'étape d'enfant opprimé, à un enfant jeté dans un puits au plus profond donc du sol, à prisonnier. Pas terrible ça, hein? Jusqu'à maintenant les choses décollent pas. Et subhanallah, il est esclave, excusez-moi, après enfant prisonnier, esclave. Et après ça, il passe une épreuve avec la femme donc du prince, du roi. Il réussit l'épreuve, il a une période de difficulté, mais ensuite Allah va l'élever, il devient ministre d'Égypte. C'est intéressant, vous voyez également, faites preuve de patience, éloignez du haram, l'ouverture, la nusrat d'Allah, elle intervient certes dans l'au-delà, mais la personne qui reste éloignée du haram, par amour, par crainte d'Allah, peut également voir une nusrat, une aide invisible qui vient de la part d'Allah, qui va même toucher son dunya, sa réussite. Donc, des gens qui se disent que oui, avec le problème de chômage, on ne sait plus dans quelle voie s'orienter, est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va pouvoir se marier un jour, est-ce qu'on va, il y a plein de gens qui se posent des questions, disent qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut être pistonné, est-ce qu'il faut avoir des relations, est-ce qu'il faut que les gens nous aident dans la société pour avoir telle chose? Oui, tout ça c'est des asbab, mais la meilleure façon d'avoir la réussite de l'akhirah bien sûr, mais avoir une partie de la réussite de ce dunya, c'est rester dans les limites, rester conforme aux ordres d'Allah, ne pas franchir le haram, parce que quand on est de l'obéissance d'Allah, quand on a le contentement, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, assurément Allah Azza wa Jal va nous protéger et va nous accorder khair, rabbana atina fi dunya hasana, mais également fi l'akhirati hasana, également de le dunya, la personne aura des récompenses, aura la protection de la part d'Allah Azza wa Jal. Et les savants disent, voyez ce Yusuf alayhi salam, voyez ce jeune dans la grotte, et voyez cette personne qui est sous l'ombre du d'Allah Rabbul Izzah, ben, vous êtes tous, toutes les personnes qui vivent de cette période de jeunesse, vous êtes tous ces jeunes dans la grotte. Et vous êtes tous également ces personnes à qui on a fait des avances pour le haram et qui a le choix d'accepter ou alors de refuser. Et on vit tous au quotidien cette situation de Yusuf alayhi salam, on a la possibilité d'accepter le haram ou de refuser le haram. Ce sont des situations que nous vivons au quotidien. Vous voyez, le sacrifice qu'ils ont fait, c'était quoi? C'était un carrefour de la vie. Tu choisis entre le droit chemin et le mauvais chemin. Et ils ont choisi le bon chemin. Ils ont eu donc la satisfaction d'Allah par rapport à ce choix. Ça a dû les arriver une fois ou deux fois ou quelques fois. Mais Allahu Akbar, dans l'époque où on vit, ces situations, ces tentations, c'est au quotidien. Maintenant, imaginez que ce jeune, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 25, 30 ans, jusqu'à ce qu'il se marie, il a une stabilité de sa vie, il n'a jamais sorti avec une fille. jamais pris la main haram d'une fille, jamais touché une personne étrangère, jamais fait la bise à une fille, pareil pour les filles par rapport aux garçons, jamais consommé un verre d'alcool, jamais touché à quelque chose qui est haram, jamais mis un écouteur dans ses oreilles pour écouter quelque chose qui est haram. Bref, quelqu'un qui, au carrefour des tentations, à chaque fois, il a pu faire les bons choix. Dites-moi, est-ce que c'est pas là un homme pieux? Est-ce que c'est pas là un haut grade qu'il va avoir beaucoup plus que ce que quelqu'un pourra faire dans d'autres étapes de sa vie, même si la personne va rester toute la journée, 24 heures sur 24 dans une masjid, à passer ses nuits en adoration, à passer ses journées en état de jeûne, mais que la personne a déjà dépassé l'âge du Shabab, où il n'a plus ses tentations. Les tentations, dites-moi, il n'arrive pas à une personne âgée. Il arrive uniquement et principalement aux jeunes. Donc on va terminer dans ces carrefours, celui qui à chaque fois arrive à s'en sortir, subhanallah, cette personne certainement il peut aspirer à être sous l'ombre du trône d'Allah Rabbul Izzah le jour de Qiyamah. On avait une grande partie de l'intervention qui concernait les boîtes de nuit, parce que c'est un véritable fléau. Peut-être qu'Inch'Allah on aura une autre fois la possibilité d'aborder ce sujet. Maintenant on va juste conclure avec une vision. J'aimerais que là déjà, on a essayé de faire en sorte que les jeunes qui sont présents intègrent le fait que ce qu'Allah peut nous accorder, c'est énorme. Et Shaitan est là pour m'empêcher d'avoir ce grade sous l'ombre du trône d'Allah. S'il passait l'âge de 40 ans, on va dire que Shaitan il lève le pied. Il sait que, khalas, grâce à mes efforts, il n'aura pas l'ombre du trône d'Allah, Rabbul Izzah, le jour de Qiyamah. Et donc, nous, on aimerait que les jeunes intègrent le fait que c'est le moment ou jamais de prendre les bonnes décisions de notre vie. D'être maître, au sens propre et figuré si vous voulez, d'être maître de mon destin. Le taqdir bien sûr, mais de faire les bons choix. Ne pas laisser Shaitan décider à notre place. Est-ce qu'on est aussi faible? Est-ce qu'on est aussi indigne pour suivre nos shahawas, nos pulsions, pour suivre le groupe d'amis? Si un groupe d'amis vous dit on va à droite, il va à gauche, on va à gauche. Si le groupe d'amis dit on se met debout sur un pied, quoi, on n'a pas de personnalité? On n'a pas le pouvoir de discerner entre le bien et le mal. On n'est pas assez mature, on n'est pas assez intelligent pour faire les bons choix et pour réaliser que le meilleur des choix, ce sont ceux qu'Allah Azza wa Jalla nous a montrés, ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montrés. N'y a-t-il pas assez de signes, de ayah de le Coran? N'y a-t-il pas assez de descriptions, d'annonces, de bonnes nouvelles et de mises en garde concernant le dénouement de nos choix, les conséquences de nos choix par rapport à cette étape de la jeunesse, pour que on réalise que, subhanallah, dans toutes ces situations de la vie, j'ai besoin de prendre les bonnes décisions, quelle que soit l'opinion que les gens auront de moi, même s'ils vont se dire que je suis comme ci, comme ça, arriéré, ou peu importe, si Allah est satisfait de moi, je suis l'homme le plus heureux, et le jour de Qiyamah, je vais réellement voir les récompenses qu'Allah nous a données. Donc ça c'est déjà cette attitude positive, ne pas sombrer dans la fatalité, jeunesse égale péché. Là, wallah, au contraire, jeunesse peut utiliser le péché comme un tremplin. Ce ne doit plus être un obstacle, ça doit être un tremplin. Vous rebondissez sur le fitna pour avoir les plus hauts grades auprès d'Allah, Rabbul Izzah. La deuxième chose qu'on aimerait que les jeunes intègrent avant qu'on se sépare, et ça aurait été plus adapté dans une suite logique du discours, mais j'aimerais juste vous poser quelques petites questions. Quel âge avait Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a cassé les idoles? On a une idée de la religion très souvent. Quand on parle des prophètes, quand on parle des sahaba, on a l'impression que c'était des personnes âgées. Grande barbe blanche, âgée, et voilà, des gens, subhanallah, ils marchent droit, qui connaissent rien concernant la jeunesse, les pulsions, rien du tout. On a cette conception que les grands saints de l'islam, c'était tous des vieux, des anciens. Ben, quand c'était jeune, comme on a fait, non. Ibrahim alayhi salam avait 20 ans. Dans les kutub tarikh, l'histoire dit qu'il n'avait pas 20 ans, il avait moins de 20 ans. Lorsque, subhanallah, il a pris son courage à deux mains pour casser les idoles, pour montrer à son peuple qu'ils sont dans la perdition. Moins de 20 ans. Et nous, à moins de 20 ans, que ça n'a rien cassé. Enfin, pas cassé, mais que ça nous casse, justement. On est des casseurs, mais on n'arrive pas à casser notre shahawat, on n'arrive pas à casser notre nafs, on n'arrive pas à casser notre shirk intérieur, on n'arrive pas à nous casser, à faire preuve d'humilité pour Allah, Rabbul Izzah. Dites-moi. Également, Ali, radiallahu anhu, était un jeune homme, on va donner une réponse directement, et c'est grâce au sacrifice de Ali que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu effectuer la hijra. Si Ali n'avait pas fait preuve de courage, le prophète n'aurait pas pu quitter Mecca, n'aurait pas pu aller s'installer à Médina. Ça veut dire, vous voyez que Ali ibn Abi Talib a eu un rôle essentiel et c'était là un jeune. Et voyez, si on devait analyser l'histoire d'Abdurrahman, fils d'Abu Bakr Siddiq, Asma, fils d'Abu Bakr Siddiq, subhanallah. Ali, radiallahu anhu, avec quel âge il avait? À peu près 18 ans. Au summum de leur vie, Sa'd ibn Abi Waqqas, avec quel âge? On a entendu parler de Sa'd ibn Abi Waqqas. Il n'avait pas 60 ans, il avait 17 ans. Sa'd ibn Abi Waqqas, avec son iman, Ajib, il avait 17 ans. Suhayb, connaissez l'histoire de Suhayb? Il a dû quitter Mecca, tout laisser. Il est arrivé à Médina pauvre. Suhayb al-Rumi, il avait 19 ans. Alors, c'est plus du tout ce qu'on pensait là. C'est quoi, il avait mon âge? Moi, mon âge, mais mina tachpès, catch mon doigt. Et eux, subhanallah, quel degré ils avaient atteint? Al-Arqam ibn al-Arqam, premier madrasa de l'histoire de l'islam, un enfant. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va braver Abu Jahl, il va braver Abu Lahab, il va braver les pires ennemis de l'islam pour dire, prenez la maison de mon papa, on va faire une madrasa là, venez enseigner le Coran. 11 ans. Courage de ces jeunes. C'est eux qui ont construit l'islam, subhanallah. Uthman ibn Affan, quel âge avait-il? 20 ans. Umar ibn al-Khattab, un peu plus âgé, mais quand même 26 ans. Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah, 27 ans. Zayd, 20 ans. Et si je ne me trompe pas, il y a un chiffre que je n'ai pas écrit, mais si je ne me trompe pas, Oussama ibn Zayd, quand il a dirigé l'armée des musulmans, qu'il a été nommé Amir avant les Prophète, si je ne me trompe pas, il avait 18 ans. C'est que les Sahaba étaient jeunes, à part Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, qui avait juste un an de moins que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire, les plus belles pages de l'histoire de l'islam ont été écrites par des gens qui avaient moins de 30 ans. Et même après l'époque de ces grands sahaba, allez regardez Mus'ab ibn Umar radiallahu anhu, un jeune homme de grande famille qui va à Al-Madinah al-Nabawiya, qui va changer l'histoire de Madinah, qui va faire une da'wah extraordinaire, que l'imam va rentrer dans chaque maison, dans chaque famille de la ville Mubarak de Al-Madinah, et qu'il va préparer le terrain pour que les musulmans peuvent s'installer, quitter Mecca, venir à Madinah et construire l'islam, l'essor de l'islam. Un jeune homme, Hassan radiallahu anhu, qui a pu éteindre les fitnas à son époque lorsqu'il était calife. Subhanallah. Donc, il y avait tellement d'histoires, on peut pas raconter toutes les histoires, mais ce qu'on doit retenir, c'est que ces gens-là, ils avaient tous moins de 30 ans et ils ont écrit les plus belles pages de l'histoire de l'islam. Alors que moi j'ai 33, j'ai 34 ans, 35 ans ou 20 ans, qu'est-ce que je suis en train de faire? Dans quoi je suis en train de perdre mon temps? Allahu musta'an. On est en train de se perdre dans les loisirs, dans des choses futiles, dans les jeux vidéo, dans les... Et là on parle de choses qui sont moubah, qui sont licites. Mais que dire de ce jeune qui tous les samedis va en boîte? Que dire de ce jeune qui se croit libre de répondre à ses parents, qui oublie Allahu Akbar, qui oublie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le paradis c'est sous les pieds de la maman, subhanallah, qui oublie que le prophète a dit que parmi les doigts qui ne sont pas refusés par Allah, c'est le doigt d'un papa pour son fils, un père qui lève les mains, qui fait doigt pour son enfant, doigt et kaboul, accepté par Allah. Et moi je l'appelle le vieux, et moi je le considère comme un fou. Je me demande si pourquoi est-ce que l'Asie ne vient pas récupérer ce vieux-là, il ne sert à rien. Na'oudhu billah. Ça, c'est les valeurs que la société nous fait intégrer. Que quand tu es majeur, tu n'es plus sous l'autorité de Ibn al-Halal, tu es sous l'autorité de tes parents jusqu'à ce qu'ils meurent. Jusqu'à ce qu'ils meurent, tu restes le fils de ton père, tu restes la fille de ta maman, la fille de ton papa. Et le Jannah, tu l'auras, bi'idhnillah, grâce à eux. Le Prophète dit, la yadkhulul Jannah ta'aq. Mouadine disent que celui qui a désobéi, qui n'a pas respecté ses parents, ne peut pas accéder au Jannah. Impossible. Les ulama disent qu'il va mourir avec su'ul khatima. Il va mourir de la pire des façons, que même s'il était dans une vie de droiture, à la fin, Allah va l'éloigner. Na'oudhu billah. Na'oudhu billah.
Quand est-ce que, subhanallah, on va intégrer que même si on ne peut pas faire des choses, on ne va pas faire des choses extraordinaires comme Omar, Abu Bakr, Uthman, Ali, les sahaba, mais au moins garder l'essentiel, au moins, subhanallah, réaliser que c'est dans cette étape-là que tout se joue. Parce que si toi tu ne comprends pas, Shaitan il a complètement intégré. Et Shaitan il détourne les gens du droit de chemin depuis l'époque de Adam, alayhi salam, un sacré CV, une sacrée expérience professionnelle que ce diable de Shaitan il a. Depuis Adam, il sait comment détourner les gens. Et lui, il n'a pas oublié ce hadith des jeunes sous l'ombre du trône d'Allah. Il va faire tout pour que le jeune sombre dans le haram. Parce que quand vous avez dépassé l'étape de la jeunesse, il sait que maintenant, khalas, il vous a privé de quelque chose d'énorme. Maintenant, il peut travailler le deuxième dossier. C'est en sorte de vous amener avec lui dans le jahannam. Wa'd, il s'est fait la promesse. قال ربي بما غويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Tout le monde, son rêve c'est d'amener l'humanité avec lui dans le jahannam. Mais ça c'est la deuxième étape. La première étape c'est de faire en sorte que vous ne soyez jamais sous l'ombre du trône d'Allah. Alors est-ce qu'on va laisser Shaitan décider à notre place? Est-ce qu'on va pas enfin prendre conscience que dans ces tentations il est de notre devoir de rétablir l'ordre de subhanallah, montrer que c'est pas Shaitan qui décide, c'est pas mon nafs qui me pousse à faire ça, c'est pas mes amis qui me disent on va danser, ce soir on danse, ce soir on chante, ce soir on boit, là wallah, où est mon iman, où est mon discernement, où est mon amour pour Allah, où est ma crainte d'Allah, c'est ça qui fait bouger un croyant, son amour et sa crainte d'Allah, et non pas les gens qui font la pluie, le beau temps, non pas l'opinion que les gens auront de nous, c'est uniquement le iman qui doit nous faire avancer, prendre conscience, diriger sa vie, prendre des deux mains les rênes de sa vie et arrêter avec les péchés, arrêter de sombrer dans les fatalités, de se dire que n'est pas grave, quand j'aurai 40 ans comme papa, je vais venir à la masjid, quand j'aurai tel âge, là mon bas va pousser, là je vais être régulier dans les premiers safs. Mais subhanallah, si tu penses que plus tard je vais venir à la masjid, plus tard je vais devenir quelqu'un de bien, c'est que Shaitan a réussi sa mission. Khalas, il t'a eu. Parce que Shaitan, hein, ça ne lui dérange pas du tout ça que tu reviennes à la masjid à 50 ans. Il n'a rien à faire, pour être poli, il n'a rien à faire de ça. Ou viens à 50 ans, pas là avec ça. Du moment que jusqu'à 50 ans, jusqu'à 40 ans, tu ne te pointes pas ici. Après, viens dans la méthode bistara, passe une vie là. Khalas, tu as loupé, tu as raté ta vie. Pour lui, tu as raté ta vie. Maintenant, quelqu'un, dites-moi, qui a passé 40 ans, 50 ans de l'haram, croyez qu'on rétablit là-bas aussi rapidement? Pas aussi simple que ça. Un vœu pieux, ça, c'est de dire que, après la retraite, Misa commence fait namaz. Là, wallah, tu meurs d'un accident 10 minutes, il y a un rire. Dans 20 minutes, tu meurs. Tu te maries un an après, tu meurs. Et qu'est-ce que tu as? Tout ce que tu souhaitais. Vous croyez qu'Allah va te récompenser par rapport au tartrit, par rapport à ce que tu souhaitais faire un jour? Tu as été perturbé, détourné du droit chemin. Donc, un des objectifs de cette assemblée, c'est que nous prenons conscience que les meilleurs, c'était les sahaba. Ils étaient tous des jeunes, les plus belles pages de l'histoire écrites par les sahaba. Leur jeunesse, ils l'ont consacrée dans l'obéissance. On ne va pas faire autant, mais nous, face au péché, on doit être capable de montrer qui est le plus fort. On doit être capable de maîtriser Shaitan, de maîtriser le nafs, et demander droit, lever les mains, mes chers amis, mes chers jeunes hommes, mes jeunes femmes qui sont présentes, après chaque salat, lever les mains. Oh Allah, guide-moi vers le droit chemin. Oh Allah, je veux cette place sous l'ombre de ton arche, le jour de Qiyama. Oh Allah, accorde-moi le tawfiq de faire les bons choix. Protège-moi des wasawis, des insufflations de Shaitan. Cette place, mes chers frères, mes chères sœurs, on a besoin de avoir. On doit lutter jusqu'à la fin pour avoir cette place honorifique. Parce que les savants disent, il y aura tellement de choses à continuer à développer. Celui qui est sous l'ombre du trône d'Allah, c'est qu'il a réussi la première étape de mahshar, de résurrection. Et quand une étape est réussie, ça veut dire que toutes les étapes sont réussies. Allahu Akbar. Pour ça, le prophète me dit que la première chose à propos de laquelle vous aurez questionné le jour de Qiyama, an salati, est-ce que les salats sont corrects, oui ou non? Il dit que si les salats ont été faits correctement, il ne manque pas rien. Toutes les étapes qui viennent après seront correctes. Mais si dès le départ, il y a un manquement dans la salat, ça va être complication sur complication tout le reste du hisab. Et par analogie, on réalise que celui qui a eu déjà une bonne mort, celui qui est dans la tombe, il voit les bonnes œuvres auprès de lui, et ainsi de suite, celui qui est sous l'ombre du trône d'Allah, le jour de Qiyama, avec les pieux, ça veut dire que les étapes qui vont venir après, là, ça va être une grande facilité. la remise délivrée des actions, ce sera une formalité. Le passage sur le surat, ce sera une formalité à la vitesse de l'éclair. L'accès au Jannah, ça va être une grande facilité, parce que dès le départ, la première étape, elle était parfaite. Et pour avoir cette étape parfaite, une des conditions, c'est passer sa jeunesse dans l'obéissance des ordres d'Allah Rabbul Izzah. Chers amis, chers frères et sœurs, j'étais un peu plus long que prévu. Et en plus, subhanallah, on n'a pas couvert l'intégralité du programme. Mais on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire intégrer ces quelques notions que vraiment on se décide à partir de maintenant de faire un tawbat nasuha. Si on n'a jamais fait le haram, il y en a comme ça, mashallah. Il y a des jeunes comme ça qui n'ont jamais répondu, n'ont jamais désobéi à leurs parents. Toujours été respectueux. Jamais fait la bise à une fille. Jamais manqué à une recommandation, un nasiha de leur part. Jamais touché une cigarette, l'alcool, ou zamal ou autre chose. Alhamdulillah, rester dans le droit chemin. Et c'est pas forcément le hafid du Coran. Là, j'adore pas du tout le discours. Il y en a plein qui font hafid du Coran et qui font plein de bêtises derrière. Donc, moi, c'est plein de critères. Des gens qui, mashallah, ils restent dans le droit chemin. Même s'ils n'appartiennent pas de grandes familles, même s'ils ne font pas des enfants de Moulissa ou autre chose, ils font en sorte de rester droit. Et même s'ils ne payent pas de mine, c'est pas eux qu'on a l'impression d'être plus pieux, mais ils s'éloignent du haram d'une manière générale, d'une simple façon. Mais subhanallah, on doit, Allah Akbar, on va un petit peu dans tous les sens des idées, on doit demander, on doit lever les mains en permanence, subhanallah, et demander à Allah de nous donner cette possibilité de faire les bons choix. Pour qu'inch'Allah, on ait cette place sous l'ombre du trône d'Allah, le jour de Qiyam. Et donc, comme on le disait, si on est dans le cas de ce jeune homme, ça ne veut pas dire que ça va durer. Il y en a plein qu'on a vu également jusqu'à l'âge de 14, 15 ans, 16 ans, alhamdulillah, ça allait, et puis on craque. Mais demandez, oh Allah, istiqam. Et si moi je suis papa, et je vois mon fils, il est dans le droit chemin, je dois lever les mains deux fois. Une fois pour demander, pour remercier Allah, shukr. Remercier Allah que mon enfant ne fait pas de bêtises. Et la deuxième fois, oh Allah, garde mon enfant dans le droit chemin. Si le droit d'un papa est accepté, arrête de demander qu'il ait un bon travail, qu'il devienne riche un jour. Demande, oh Allah, garde mon fils dans le droit chemin. Qu'il soit un moyen de hidayah, de guider pour l'humanité, et qu'il reste toujours dans le droit chemin. Donc, si je suis ce jeune homme qui n'a jamais fait de péché, on doit demander à Allah de me garder, ihdina as-sirat al-mustaqim, de nous garder le droit chemin. Maintenant, si je suis cette personne qui a fait quelques erreurs, ou qui est dans les erreurs en permanence, qu'est-ce que je peux faire? Tawbatul nasuha, demander pardon à Allah. Et quelle que soit la nature des péchés, j'étais avec un jeune tout à l'heure qui me disait que, hein, il va se reconnaître, il dit que mon grand péché c'était la musique. Il disait ça. Il dit que j'ai fait la promesse, c'était au Hajj, j'ai fait la promesse devant la Kaaba de ne plus jamais écouter la musique. Subhanallah, niyat saliha. Et quand, le prophète dit, quand quelqu'un fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers lui. Il n'y a que montrer à Allah que vous êtes prêt à revenir vers lui, et Allah va vous ramener, Allah va ouvrir les portes du tawfiq. Quel que soit le péché, que ce soit l'adultère, si mon problème c'est l'adultère, si mon problème c'est l'alcool, mon problème c'est tel péché, la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre la gravité du péché. À travers ce genre de discours par exemple, essayer de lire quelles sont les conséquences des péchés, il faut tout d'abord que le cœur soit convaincu que ça c'est haram. Si le cœur n'est pas convaincu, hein, aucun discours n'apportera quoi que ce soit. La deuxième étape, regardez les bienfaits qu'Allah nous accorde. Faire en sorte que ce cœur devienne reconnaissant. C'est-à-dire, on a un cœur qui est malade là. Il est noir, il est sec. Au passage, on me dit qu'on fait un péché, il y a un point noir. Deux péchés, deux, un point noir. Jusqu'à ce que le cœur devienne tout noir. Et il devient comme une carapace imperméable. Il n'y a plus rien qui fait l'effet. Ce cœur, il est sale, il est puant, il est tout ce que vous voulez sauf pur. On a besoin de le travailler, de le modeler, de le faire retrouver une forme, qu'il devienne reconnaissant, qu'il voit les bienfaits qu'il y a, qu'il réalise, qu'il prenne conscience que ce que je fais c'est haram, qu'il apprenne à connaître Allah. Comment vous voulez que j'ai envie de retourner vers Allah si je ne connais pas qui est Allah, si je ne connais pas quelle est la rahmat d'Allah, comment Allah est pardonneur? Donc apprendre, connaître Allah. Et quand on a réalisé qui est notre Rabb, qu'on a réalisé tout ça, le cœur va devenir réceptif. Et quand le cœur commence à s'ouvrir, commence à devenir réceptif, c'est là qu'on demande, oh Allah, donne-moi tawfiq, de demander tawbah. Il y a plein de gens qui demandent tawbah, même à Arafat, même devant Kaaba, et ils recommencent les péchés. Demandez, oh Allah, accepte-moi pour un tawbatul nasuha. Et là, on essaie de réunir les trois conditions. Al-nadam, regret, remords. J'ai été 5 fois en boîte de nuit depuis le début de l'année, je demande pardon à Allah. Oh Allah, ce que j'ai fait, c'était mal. Et comment est-ce qu'on peut regretter si on n'a pas réalisé que c'est un péché? Tant qu'on ne réalise pas que c'est haram, que c'est mauvais, on ne pourra jamais avoir de remords. Donc, apprendre, connaître que ça c'est mal, découvrir, lire les hadiths à propos de ce péché pour qu'on prenne conscience, et là on pourra éprouver des remords. Également, quand on connaît ce qu'Allah attend de nous, là on va comprendre qu'on est dans le mal, dans l'erreur, et là on pourra réellement avoir des remords et demander pardon à Allah. Et ensuite, quand on a les remords, on demande le tawba avec l'intention ferme de ne plus revenir vers le péché, de ne plus recommencer. Les savants disent que la meilleure des façons de prendre des précautions, c'est de s'éloigner des choses de haram. Si c'est un groupe d'amis qui m'amène vers le haram, on s'éloigne d'eux. Si c'est un endroit, si je parle, mais c'est mon problème, c'est l'alcool, ben, je vais plus au bar avec mes amis, je vais plus tel endroit, et ainsi de suite. Bref, prendre les précautions qu'il faut, et toujours demander à Allah, istiqama, de rester éloigné des péchés. Et ce qui est magnifique dans notre din, c'est qu'à n'importe quel moment, on peut revenir vers Allah. Même si on a été extrêmement éloigné, on terminera avec ce hadith magnifique, l'homme qui a tué 99 personnes, et il en a tué 100. Et il a demandé pardon, mais il n'a pas pu vraiment commencer une vie d'œuvre pieuse, qu'il est mort en chemin. Son pardon a été accepté parce qu'il avait il a commencé à faire le premier pas vers un retour vers Allah. Et ce hadith, c'est magnifique, c'est le hadith de l'espoir. Donc, si je suis ce jeune qui n'a jamais péché, alhamdoulilah, demande à Allah de rester ferme. Mais si je suis ce jeune qui a déjà fait des erreurs, c'est le moment de demander tawbah, de reprendre sa vie en main, parce que jeunesse en rapport intime avec fitna et conséquence, c'est le jour de qiyam. Je veux être ce jeune qui, le jour de qiyam, sera sous l'ombre du trône d'Allah et se rendra compte que ce qu'Allah vient de me donner, c'est ajib, c'est magnifique, et que je suis à ce moment-là la personne la plus comblée par Allah. Qu'Allah nous accède d'un tawfiq de comprendre et de mettre en pratique ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Il y avait normalement des questions, mais vu le temps qu'on a pris, je ne sais pas s'il y a une question. Par principe, on s'est engagé à répondre aux questions, et je pense que vous êtes tous un petit peu fatigués. Jazakumullah khair. Ah, il y a une question. Yallah. Vous pouvez rester assis, on vous entend. Jazakallah khair, le respect est mutuel. Sept. Alhamdulillah.
Mais de l'autre côté, on organisait aussi une journée de l'option du commerce, mais aussi en plein centre-ville, on a fait une défilée de boîtes avec les femmes du
Alors, je ne connais pas l'événement, je ne suis pas de Saint-Louis, d'accord, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je connais juste une agréade avec LGM, c'est le seul truc qui m'a retenu. Et maintenant, écoutez, on va dire ça c'est un truc à part, d'accord, ça c'est à voir avec les responsables à la masjid. Nous, les questions qui nous intéressaient, c'était les questions avec sur la thématique du bayan. S'il y a une question par rapport à la jeunesse, par rapport au qiyama, par rapport au fitna, c'est mon travail, là c'est ma spécialité, le reste c'est une organisation de la mairie ou d'autres choses, donc ça c'est pas... Non, veut dire que, voyez, avec les responsables, moi je veux des questions avec le bayan, en rapport direct avec le bayan. Là, je suis prêt à vous répondre. Je suis là pour ça, Inch'Allah. S'il y a une question en rapport direct avec l'intervention, s'il y a une notion qui n'a pas été comprise, normalement, on devait donner un peu plus de temps, parce qu'il y avait des questions intéressantes. On avait entendu des jeunes parfois poser des questions. Je suis accro à la musique. Il n'est pas arrêté. Trop facile de dire arrête, il y aura telle récompense. Ça, c'est des questions intéressantes. Ça, c'est vraiment comment, par rapport au texte et par rapport à l'expérience de personnes qui ont pu s'en sortir, comment vraiment s'arrêter avec la musique, avec des addictions ou autre chose. On a un jeune qui a une question. Salam. Alors, est-ce que vous pouvez, si quelqu'un, déjà je n'entends pas bien, si on peut reformuler. Ah, est-ce que par exemple, si on a le choix, on fait des études classiques, une filière classique, l'université La Réunion, Moufia ou autre chose, et des études islamiques, si on choisit des études mondaines, est-ce que c'est un péché? Alors, on ne va pas dire que c'est un péché, parce que, d'une manière générale, et c'est là qu'on voit la grandeur de notre dîn, quand le prophète dit Talabu kasbil halal, faridatun min fara'in. Travailler pour avoir son rizq, pour avoir sa subsistance licite, c'est une obligation parmi les obligations qui incombent aux croyants, qui incombent aux musulmans. Donc, que je choisis la médecine ou je ne sais pas quelle voie, et que je vais travailler, je vais avoir ma subsistance de manière licite, alhamdulillah, c'est déjà une bonne action. Et c'est déjà une responsabilité par rapport à ma future femme, par rapport à mes enfants. D'accord ? Maintenant, si on a le choix et qu'on peut combiner les deux, nourun ala nour, c'est encore meilleur. D'accord ? Et puis vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent que ben, pour être un bon musulman, il faut être un alim. Je ne suis pas d'accord, moi. Pour être un bon musulman, il faut être un mufti, il faut être un fundi. On va dire que ça, c'est un plus. Maintenant, peut-être un excellent croyant en étant médecin, en étant commerçant, en étant professeur d'école et en apprenant régulièrement la religion. Imaginez quelqu'un qui, tous les soirs, s'assoit dans un majlis, il apprend quelque chose. Là, avec tel alim, il apprend hadith, avec tel alim, il apprend tafsir, avec tel alim, il apprend telle chose. Mais dans sa vie, il est dans talabul ilm. Dans toute sa vie, il est dans l'apprentissage de la science religieuse. Et que peut-être qu'avec ce ilm-là, il développe son iman, il se protège du haram, il va vers les bonnes œuvres, il invite vers Allah, et qu'avec le savoir de dunya qu'Allah lui a accordé, ça peut être également un moyen d'inviter les gens vers la religion d'Allah. Donc dans toutes les voies, il y a un khair. Dans toutes les voies, il y a un bien. Ça dépend comment on oriente, quel est notre objectif. On peut être un excellent croyant d'un en étant médecin. D'accord, quelqu'un qui fait un discours sur, je sais pas moi, l'embryon, sur le développement des cellules, etc., en faisant un rapprochement avec les versets du Coran, ça peut être un moyen de guider pour des gens qui n'ont pas iman. Réaliser que le Coran explique telle chose et que la science a réellement prouvé. Vous voyez, donc, quelle que soit la voie qu'on va choisir, il n'y a pas une voie figée. Certes, le rang des ulama, le rang des savants est un rang qu'Allah va accepter certainement plus que d'autres rangs. Maintenant, il faut faire attention également, parce qu'on m'a dit que parmi les premières personnes à être jetées dans l'enfer, Al-Qari, ou alors de certaines sources, le Alim, hein, qui a fait tout ça pour qu'on dise que lui, il est un grand savant, lui est un... Donc attention, on peut prendre la meilleure des voies, mais avoir une intention faussée, ria, ostentation, et être condamné en premier jour de Qiyam. Donc, quelle que soit la voie qu'on choisit, mon frère, Al-Karim, il faut être sincère de ce qu'on fait, il faut rechercher le contentement d'Allah, c'est Allah voit notre sincérité et qu'on utilise ces faculté du dunya pour aider le dîn également, alhamdoulilah, il y aura un grand bien pour nous. Et comme on a dit encore une fois, il y a tellement de facilité, on est dans un endroit où il y a, subhanallah, on a combien d'alim il y a à la Réunion? 150, 160, et il y a un alim tous les 3 mètres carrés, subhanallah, on a la possibilité d'avoir la science religieuse au quotidien. Donc, quel que soit le choix, avoir le bon niya, inshallah, Allah ouvrira les portes. Il y a d'autres questions en rapport avec le banyan? Si vous avez faim, dites-moi. Hein. Moi, j'ai faim. Imran, une question? N'hésitez pas, c'est le moment. Enfin, nous, on est là, on est disponible demain, c'est dimanche. Maintenant, avec tout ce qu'on a dit, maintenant, on dit demain, c'est dimanche. L'objectif principal, l'objectif premier, c'est que tout le monde soit là, namaz Fajr, demain. Sinon, t'es rendu à casse dedans. Hein. Si demain, on n'est pas là, Fajr, khalas, ma ihtaj. Comme ils disent, Bekar, ça n'a aucun intérêt. Si demain, namaz Fajr, on n'est pas là, c'est que le discours n'a pas pénétré les cœurs. Et qu'est-ce qui fait qu'un discours ne pénètre pas les cœurs? C'est quand le cœur est devenu noir. Quand on fait un péché, un deuxième, un troisième. Quand on devient fasiq, on devient fasiq et qu'on cumule les péchés sans demander pardon, c'est-à-dire sans réaliser que c'est un péché, le cœur devient tellement obscur que plus rien ne fait effet. On peut écouter quelque chose, mais la guidée ne pénètre pas les cœurs. Ça passe par les oreilles, ça ressort par l'autre côté, mais ça ne touche pas les cœurs. Et ça, c'est grave. Quand on a un cœur qui devient imperméable au Coran, aux paroles d'Allah, aux paroles du Prophète sallam, c'est qu'on est dans un état très grave et qu'on a besoin de s'occuper de notre iman, de faire des mujahada. Si quelqu'un demande, c'était ce genre de questions que je voulais, des questions constructives, qu'est-ce que je peux faire pour changer de cap, pour me rapprocher d'Allah? Quelqu'un qui dit qu'il y a plein de choses, mais je ne suis plus un âge pour aller faire un alim, je ne suis plus un âge pour faire des choses extraordinaires, mais je veux devenir un homme pieux, quelqu'un de bien, facile. Premièrement, règle tes relations avec Allah et règle tes relations avec les hommes, avec les makhlouqat. Tes relations avec Allah, commence à être régulier sur tes 5 salats. Et si tu es un monsieur, tu les fais à la masjid. Et tu fais au premier saf, en congrégation, jama'at takbir oula. Sois régulier dans les salat nafil, qiyamul layl. Deviens un fervent adorateur d'Allah les nuits. En ce moment, les sérieux, 90. Si on a la race pour lève tahajjud en ce moment, mettez au réveil 3h15. On fait tahajjud tous les soirs. Quelqu'un qui fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers lui. Celui qui vient vers Allah en marchant, Allah vient vers lui en courant. Subhanallah. Allah qui voit un jeune ou un moins jeune qui tous les soirs se lève à 3h15 du matin, qui lève les mains, qui demande pardon. Oh Allah, ouvre-moi les portes, accepte-moi. Oh Allah, aime-moi. Ne me rejette pas. Vous pensez, Allah ne va pas l'accepter? Même s'il a fait 20 ans de bêtises, même s'il a fait 30 ans de haram, Allahu Akbar, celui qui fait un pas vers Allah, Allah va l'accepter. Et fait le niya de jeûner tous les lundis et le jeudi. Ou alors 3 jours du mois 13, 14, 15. C'est-à-dire, je ne dis pas juste faire ce qui est obligatoire, faire des choses en plus, faire des choses qui ne sont pas obligatoires, qui nécessitent un certain sacrifice. Et quand Allah voit le sacrifice de la part d'une personne, Allah ouvre les portes du Kaboul. Retourner vers Allah, c'est d'une grande facilité, mais nécessite azm, une volonté ferme. Celui qui veut un retour, un changement radical dans sa vie, qu'il commence à faire ses qiyam al-layl, à faire na'am al-tahajjud, et demander doua, à ce moment, il va voir la nusra d'Allah qui arrive, et comment sa vie va changer. Allahumma amin, Allahumma ja'alna amin. Ça va aller, Inch'Allah? Je t'écoute.
Est-ce que le fait
d'avoir une relation
amicale, c'est-à-dire sans...
Mais bien,
si j'ai
ben,
j'en ai fait,
là.
Sans vraiment...
Un jour, il coup de balle, il passe pas. Hein? Il là. Il passe pas. Alors, est-ce qu'on a le droit?
Je ne parle avec une fille, mais vraiment sans plus.
Sans plus.
C'est
vrai qu'on vit à une époque compliquée. On vit à une époque où, avec la mixité, avec la fréquentation, il est impossible, hein, j'aurais aimé ne pas dire ça, il est impossible de demander à un jeune lycéen, par exemple, cause pas jamais qu'un fils. C'est pas possible. Dans ce cas, il faut aller vivre à Makkah, il faut aller vivre à Madina, il faut aller vivre dans un endroit où il y a une séparation. Maintenant, Allah connaît mieux notre intention. Je disais ça à une personne qui posait une question à peu près de ce sens tout à l'heure. Allah connaît notre niya, ce qu'il y a dans le cœur. Maintenant, si nous-mêmes on a été au lycée, Allah nous a protégés de beaucoup de choses, mais il y a des fois on est dans un groupe de travail, CDI, avec des filles pour faire une recherche commune, mais faire en sorte que l'intention reste toujours correcte, sincère, et de ne pas dépasser les limites. Hein. Parce que, vous savez, il y a plusieurs façons de regarder une fille, d'accord? On peut regarder comme ça, juste pour faire un travail, puis on peut regarder comme ça, en bavant, d'accord? Et là, c'est autre chose. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, ce principe dit que le premier regard est pardonné. Il y a le regard furtif, d'accord? Maintenant, si la personne est mal intentionnée, Allah connaît ce qu'il y a dans le cœur, Allah connaît les intentions. Mais c'est vrai que dans le contexte dans lequel on vit, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Il y a une certaine rigueur qu'on ne pourra pas appliquer dans la vie. Il y a des choses, et Allah sait. Maintenant, la même action qui va être accomplie, quelqu'un qui le fait d'un pays où il y a une séparation homme-dame, hein, dans l'Arabie Saoudite, Makkah, Madina, ou dans des endroits, mashallah, où les choses vont mieux, ben, ça sera considéré comme un haram. Mais on va dire que, je ne dis pas que dans notre contexte, ça va, c'est autorisé, mais c'est un mal qui est moins lourd en conséquence, et le plus important, c'est de garder le lien sincère, faire en sorte qu'il n'y a aucun débordement. Mais ça, jusqu'à quand on le maîtrise? C'est la question qu'on se pose. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut maîtriser? Donc, il faut être très vigilant, faire extrêmement attention. Et pour limiter la casse, faire en sorte de ne jamais être avec une fille seule. Parce que le prophète dit que quand un homme se retrouve avec une femme, la troisième personne, c'est Shaitan, le diable. Et Shaitan, il a cette faculté, malin, franchement, il est malin, il a cette faculté de te faire voir, d'embellir les bonnes actions. Il y a des versets là, le lève plus moi le verset Coran, de le mot de tazyin al-a'mal, afaman zuyyina lahu su'u 'amali, si je me trompe pas, des versets qui vont dans ce sens. C'est pas forcément ce tafsir là. Shaitan a cette faculté d'embellir les péchés. Alors même si le temps côté où là, hein, c'est un ton banane ou un ton albacore, Shaitan a la possibilité de te le faire voir comme Amdahiyama, je sais pas qui ça, comme Miss Réunion, je ne sais pas quoi. Allah Mustaan. Il y a des fois où tu as l'impression que c'est une relation amicale, tout à fait normale, mais Shaitan, il va faire en sorte de mettre des waswasa, des insufflations dans ton cœur, dans le cœur de la personne, etc., jusqu'à ce que les choses se dégradent. Donc, pour limiter la casse, s'il y a un travail à faire en commun et tout, bref, mais ne jamais être en intimité avec une personne étrangère. Ça, c'est les précautions qu'on peut prendre, et puis le reste, c'est dans les mains d'Allah. Jazakallah, la question est pertinente et c'est une question, comme on dit, moi, c'est une question d'actualité. Barakallah, fik, Allah te protège. Tu as une dernière question?
La définition de l'intention.
La définition de?
L'intention.
Nia? Précisez votre question. Parce que l'intention, c'est la ligne de conduite que tu vas te fixer quand tu vas faire une bonne œuvre, ou tu vas dire une parole, ou quelle que soit la chose que tu vas faire, à long terme, tu vises quoi? Ça, c'est la décision de l'intention. Parce que ça me dit que, inna mal a'malu binniyat, wa inna mal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, et ainsi de suite. Quand quelqu'un fait le hijra, une action qui est le hijra, par exemple, si quelqu'un fait le hijra, il quitte un endroit pour aller dans un autre endroit, par rapport au din, il veut il recherche la proximité d'Allah, il veut quitter un endroit où il y a le haram, c'est un acte vertueux, Allah va l'accepter. Mais dans, on va dire dans un même convoi, quelqu'un qui est dans la même caravane et qui y va parce qu'il a une jolie fille, il veut se marier, ben il n'aura pas la récompense du hijra, et ainsi de suite. Il y a que l'action, il y a plein de gens qui font la bonne œuvre, mais celui qui est vraiment sincère, niya, intention, doit être intimement lié avec sincérité, avec iradatu wajhillah, rechercher la proximité d'Allah, le contentement d'Allah dans tout ce qu'on fait. Et surtout ne pas faire par suma'a shuhrariya, c'est les trois étapes de l'ostentation, ni pour faire voir, ni pour que les gens parlent de toi, qu'on entende parler de toi, ni pour avoir shuhra, pour avoir une certaine place de le cœur des gens. Ça c'est, on va dire, la définition de niya. Mais c'est une belle question, c'est une question bayane, ça, c'est une question à développer. Et voilà, quand on fait une bonne action, faire en sorte que je le fais uniquement pour Allah. C'est pour ça que les savants disent qu'avant de faire une bonne action, toujours réfléchir à qu'est-ce que je suis en train de faire et pourquoi je le fais. Et il y a quelque chose de magnifique, maintenant que vous posez la question sur niya, il y a une notion qu'on avait dit une fois ici, il me semble, c'est la notion de ihtisab. Ihtisab, ça fait partie des notions que beaucoup de gens oublient. Al-ihtisab, c'est quand tu accomplis une bonne action, tu es conscient qu'est-ce qu'Allah va me donner le jour de Qiyamah. Ou alors quand tu t'éloignes d'un haram, tu sais que quand je m'éloigne du haram, Allah va m'accorder telle chose le jour de Qiyama. Ça renforce la sincérité de l'action. Quand tu fais l'action, tu sais qu'Allah va m'accorder telle récompense, subhanallah, tu vas être encore plus ferme dans l'accomplissement de la bonne action ou encore plus ferme dans l'éloignement du haram. Hada. S'il y a d'autres questions, monsieur Zadvat, ça va? Même si c'est des moins jeunes aussi, hein, on prend les questions. Monsieur le juriste, Qari Sab, on est un Qari juriste, mashallah. Voilà, on peut être juriste, je ne sais pas dans quelle voie, c'est avocat ou autre chose, et être, mashallah, s'engager dans le Coran, dans la maîtrise du Coran. On peut joindre les deux, mashallah.
Le nafs, lui, il est dans la pensée ou dans le cœur?
La pensée. Quelle est la différence entre la pensée et le cœur? Le cœur, je sais c'est quoi, mais la pensée, c'est quoi? C'est dans la tête? Il est à l'intérieur. On va s'en sortir de cette divergence. Il est dans toi, le nafs. Et comme on a dit le verset, « Inna nafs la ammaratum bisou, illa ma rahma rabbi sauf si Allah a pitié de nous. » L'homme tend vers le péché. C'est dans la nature de l'homme que d'aller vers le péché. Et donc, corriger le nafs. Vous savez comment est-ce que le nafs, il va prendre de l'ampleur? C'est comme un animal sauvage. Plus tu le nourris, plus il aura de la force. C'est-à-dire, à chaque fois que tu as envie de faire quelque chose, et tu le fais... Et pas forcément du haram, là on ouvre notre bayan. Hein. Quand c'est le haram, c'est pire. Ou le nafs dit, oh, regarde, tant il est en forme. On regarde, on dit, waouh, en forme. Et le nafs, c'est comme si que de 2 poissons, il passe à 5 poissons. Il te dit, regarde celle-là, waouh, il passe à 7 poissons. Et ainsi de suite. Plus on cumule le haram, il y a les péchés, les points noirs, mais le nafs va se renforcer. Jusqu'à ce que le nafs prenne une telle ampleur qu'il devient ton maître. Il y a un verset du Coran qui dit « Ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu » Les gens qui prennent leur hawa, c'est quoi hawa? Hawa, c'est shahawat, c'est les pulsions, on va dire, on peut résumer ça, le nafs, qui prennent son nafs comme son Dieu, na'udhu billah, c'est-à-dire ce qu'il lui dit de faire, il fait. Ça, c'est quand on arrive à une étape où on a tellement l'habitude d'obéir à notre nafs qu'à un moment donné, on ne peut plus s'en échapper. Et parfois même... Ça concerne les choses qui sont licites, c'est-à-dire halal. Une fois, Omar ibn al-Khattab, j'avais lu ça il y a quelques temps, il voyait quelqu'un qui allait au bazar, il dit, tu vas faire quoi? Il dit, ben, j'avais envie de manger de la viande, je vais acheter. Il dit, comment? A kullama tashtahi. Est-ce qu'à chaque fois que tu as envie de manger telle chose, tu y vas, tu achètes? Il veut dire que c'est ça ta vie? Quand on a envie de quelque chose, où ça va, où prend, c'est-à-dire te satisfaire, ça aussi, ça renforce le nafs. C'est ça que le mujahada sur le nafs, c'est bon, un niveau un peu plus accessible pour nous, c'est quand on a envie de faire le haram, s'éloigner, s'en abstenir, et c'est là qu'Allah t'ouvre une porte d'acceptation, et là le nafs affaiblit. Et quand le nafs faiblit, il nous tend moins vers le péché. C'est pour ça qu'on a des gens aussi dans le Ramzan aussi, les mastis restent. Des gens disent que oui, dans la Ramzan, soi-disant, Shaitan est enchaîné, mais il a toujours envie de faire des bêtises, toujours envie de faire des péchés, ça ne change rien. C'est que son nafs a atteint un tel degré, il a une telle emprise sur la personne, que même Shaitan n'est pas là, son nafs lui fait faire ce qu'il veut, Allah Musta'an, parce qu'il a l'habitude de suivre ses instincts, ses pulsions. Jazakallah khair. Oui. Là, avant de continuer, c'est un maillot Paris, ça? C'est un maillot PSG, ça? D'accord, vous n'aurez pas répondu aux questions. Continuez.
Recommence. Au jour d'aujourd'hui, des jeunes quoi? Mais ça dépend de quel péché on parle. Des meufs. Bien fait, non, parce que dans l'européen, il n'y a pas de meuf. Hein. Et ni en arabe, le meuf n'existe pas non plus. Donc voilà, ça c'est la plus grande tentation. Le Prophète me dit que la plus grande fitna qui existe, c'est la fitna des femmes. Le terme que tu utilises, c'est casser. Comment casser ça? Elle n'est pas casse de figure, c'est un gros problème. Il n'a pas de mal à faire ça. Casser cette spirale de haram concernant al-jins, concernant les femmes, et de l'autre sens, hein, la femme par rapport à des jeunes hommes, etc., c'est le contrôle du regard, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Parce que si dès la première étape, qu'est-ce qui te donnera l'envie de connaître, de sortir et ensuite de faire le haram, le zina avec cette personne? C'est pas, la première étape, c'est de voir. Quand on l'a vu, elle le tantine, la meuf, comme tu dis, et que tu as trouvé que la meuf, elle est en forme, c'est parce que tu l'as regardée. Si dès le départ, on casse cette barrière, on baisse le regard, assurément, les autres étapes ne vont pas suivre. Tout à fait possible. Comment? On sait plus mettre les yeux? Ou achète un super au clé, 120 euros, en forme. Non, on peut, subhanallah, et bon, là ça va être, on va aller un peu trop, on va prendre un peu plus de temps. Hein. Quelqu'un qui contrôle son regard, subhanallah, d'un contexte, comme tu es en train de le décrire, Ya Akhil Karim, mon frère, c'est un homme pieux, c'est un bouzlouk, comme les gens, ils aiment dire ici, c'est un homme pieux. Une fois, il y avait des gens de Makkah qui étaient venus à Saint-Denis, ils ont fait quelques jours et ils voulaient sortir un petit peu du cadre machin. Ils disent allons, on marche un petit peu. C'était un samedi après-midi. Donc il m'a dit il y a un samedi après-midi au marché à Leclerc. Je sais pas si vous avez l'équivalent ici, mais il a vu ce qu'il fallait pas voir. Donc il s'est rendu compte du degré de fitna quand on était en plus, donc c'était très light. Et il m'a dit que Cheikh Ibrahim, celui qui dans votre pays arrive à contrôler son regard, c'est wali min awliya illah, c'est un proche d'Allah. Parce que contrôler son regard ici, c'est ajib. C'est des gens qui venaient de Makkah, près de Makkah, d'accord? Et celui qui contrôle son regard à Makkah, ben, c'est quelque chose de tout à fait normal, parce que les femmes sont couvertes correctement. Donc, dans un contexte dans lequel tu vis et que nos jeunes vivent au lycée ou autre chose, où le fitna est partout, le fitna est envahissant, subhanallah, celui qui peut baisser son regard, et je jure par Allah que c'est quelque chose de possible, sinon le Prophète ne nous l'aurait pas demandé. Il n'y a aucune bonne action qui devient impossible à un moment donné, parce que la charia, elle perdure jusqu'à la fin des temps. Donc, toute action reste réalisable. Mais c'est là un mujahada énorme qui demande d'être fait, et ça commence par les doigts. Si tu te lèves, qiyamul layl, tahajjud, tu lèves et tu dis, oh Allah, accorde-moi la force de iman pour baisser mon regard. Je te jure qu'à partir du lendemain, Allah te donne la possibilité, et en baissant le regard, la personne trouvera la douceur de la foi, comme on l'expliquait tout à l'heure, et la personne, il va trouver une jouissance exceptionnelle de le fait de baisser son regard. Allahumma, qu'Allah te l'accorde, inshallah. Bye, Farouk. Mais une voile est telle partout qu'il n'a pas un madame là-haut. C'est pas une question, c'est une histoire, ça. Le madame, il mangeait, non? Avec moi, pourquoi manger? Il peut lire la question? J'ai pas très bien compris concernant le jeune qui sera sous le trône d'Allah. Imaginons que je sois jeune, 17 ans, et que j'ai passé mon temps dans la désobéissance. Et puis un beau jour, je me répands sincèrement. Ces 17 ans perdus. C'est pas 17 ans perdu, mais j'ai 17 ans, d'accord? M'empêcheront-ils d'être sous le trône d'Allah Azza wa Jal? Donc ça c'est une première partie de la question. Alors, comme on a vu en introduction, on peut considérer la jeunesse jusqu'à l'âge de 40 ans, d'accord? Si durant cette période, effectivement, quelqu'un a été détourné du droit chemin et qu'à un moment donné, la personne se ressaisisse, qu'il retourne dans le droit chemin, on va dire qu'on a grand espoir qu'une partie de sa jeunesse, il a passé de l'obéissance d'Allah, il a demandé pardon, et on a donc grand espoir qu'Allah, et ça c'est pas à nous de dire il l'aura ou il l'aura pas, ça c'est Allah seul qui peut dire, on a grand espoir que si durant cette fin de la jeunesse, la personne a pu revenir dans le droit chemin, il a, inshallah, le potentiel pour être sous l'ombre du trône d'Allah, azzawajal, inshallah, le jour de Qiyama. Le problème, c'est quand 40 ans est passé. Là, on ne peut plus revenir. Quand la personne a dépassé 40 ans, là, on ne peut plus rattraper le temps perdu. Mais tant qu'on n'a pas encore arrivé à la limite de la jeunesse, on a encore, inshallah, la possibilité d'être candidat, guillemets, à être sous l'ombre du trône d'Allah. Et concernant donc la question sur la jeunesse, comment est-ce qu'on a passé? Après la mort, on nous pose des questions. Les trois questions, oui, qui est ton Dieu, qui est cet homme et quelle est ta religion? comme l'islam est basé sur le tawhid, les actions viennent après pour les compléter, bien sûr, ça c'est Aqidah al-Sunnah al-Jama'ah. Imaginons qu'on réussit. Hop. Imaginons qu'on réussisse cette étape de la tombe, le reste sera facile pour nous d'après le hadith du Prophète, le sera-t-il même si on a buté, si on a, oui, bah, compris, si on a buté dans notre jeunesse. C'est-à-dire que, là il y a un petit truc qui est un petit peu compliqué à comprendre, hein. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une question d'enchaînement d'étapes. Et je m'excuse parce qu'on avait l'intention de développer les enchaînements d'étapes, mais le temps ne nous le permet pas. Vous savez, tout commence quand Malik al-Maut prend votre âme. Celui qui voit Malik al-Maut sous un aspect angélique et magnifique, c'est Bouchra. C'est l'annonce de bonnes nouvelles d'étape en étape. Parce que quand Malik al-Maut vient prendre l'âme d'un croyant sous sa plus belle aspect, hein, vous savez qu'est-ce qu'il dit au croyant? Il dit qu'Allah t'a adressé sa âme. Vous ne connaissez pas Al-Fajri? Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Annonce sa bonne nouvelle qu'Allah est satisfait de toi. Il n'y a que donc c'est la première étape au moment où Malik al-Maut reprend mon âme et qu'il m'annonce qu'Allah est satisfait de toi, tu es un proche d'Allah. Ça veut dire que la tombe va bien se passer, ça veut dire que le mahshar va bien se passer, ça veut dire que la remise des livrets d'action et ainsi de suite, toutes les étapes jusqu'au Jannah, Inch'Allah, ce sera futuhat sur futuhat, ouverture sur ouverture, assurément. Maintenant, maintenant, une personne peut, la personne est revenue dans le droit chemin à un certain âge et que les étapes se passent bien, sauf que le jour de Qiyamah, la personne sera ressuscitée, on va dire, avec des croyants. Comme le verset au Coran, il y a un verset qu'on a expliqué il y a quelque temps. Wa'idan nufusu zubwijat. Les mufassirs disent que les gens vont être ressuscités en fonction de leur catégorie. Les pieux avec les pieux, les pécheurs avec les pécheurs. Donc il est possible qu'une personne soit ressuscitée avec un groupe de croyants, mais pas sous l'ombre du trône d'Allah. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que la personne est condamnée. C'est qu'il n'a pas ce degré de d'être sous l'ombre du trône d'Allah, mais tout en étant parmi les salihin, tout en étant parmi des gens pieux qui sont retournés vers Allah à un moment donné de leur vie. Et la dernière partie de la question. Ôtez. Et après, il est écrit, voilà, avec 3 A. On retourne. Concernant la relation avec le Coran, je suis hafidha, mashallah, mais je n'ai pas encore terminé, donc je n'ai pas hafidha. Ai-je le droit de faire une pause parce que je juge et je me suis rendu compte que mon intention de mémoriser le Coran avait une faille? Oui, je le fais pour Allah, mais j'aimerais comprendre ce Coran que je lis parce que plusieurs fois Allah me dit de méditer sur le Coran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Comment méditer si je ne comprends pas? Et on m'a montré du doigt des oui, j'étais, à cause de ce choix. Alors, une personne, subhanallah, mémorise le Coran. Maintenant, il peut y avoir la bonne intention qui émane de cette personne. Mais très souvent, quand on mémorise le Coran, c'est qu'on a commencé très tôt, à l'âge de 6 ans, 7 ans, c'est les parents qui nous ont dit de mémoriser. Donc, à la base, il n'y a pas l'envie d'apprendre le Coran, mais c'est par la suite, quand ce jeune, il va devenir plus mature, hein, il commence à 7 ans mémoriser le Coran, il va faire 2 siparas par an, 3 siparas par an, à l'âge de 13, 14 ans, il en est à 20, 22, et là il devient mature, il commence à comprendre, et il connaît maintenant la valeur de la mémorisation du Coran, c'est là qu'il va recadrer son niya. Parce qu'avant il était trop jeune, il n'était même pas baligh peut-être, pour avoir le niya sincère. Après on recadre le Coran, même si c'est après avoir mémorisé le Coran, j'ai terminé mon hifz à 12 ans, j'ai jamais compris qu'est-ce qui s'est passé, et là ensuite je réalise, là on peut à tout moment avoir la sincérité et Allah il connaît. Allah il connaît que c'était une étape où la personne était trop jeune. Maintenant, il faut faire attention de ne pas sombrer dans le piège de Shaitan. Certes, on avait dit tout à l'heure, at-tadabbur. Ça c'est l'étape, l'avant-dernière étape, l'avant-dernière shurut, on va dire l'avant-dernière obligation, l'avant-dernière recommandation plutôt, concernant le Coran, c'est méditer sur le Coran. Afala at-tadabbaruna al-Quran, chose qui malheureusement n'existe quasiment pas. On dit le Coran, on le lit, on le récite, on l'écoute, on aime écouter en qira'a, on le lit, tarawih, on le lit, on va gagner des concours, parfois même à Makkah, ça se limitera à ça. Maintenant, méditer, comprendre le Coran, pour la dernière étape, c'est quoi? C'est le mettre en pratique. Maintenant, certes, Allah nous a demandé de méditer sur le Coran. Je me rends compte que j'ai mémorisé déjà 26 paras, mais que je n'ai pas atteint cet objectif de méditer pour le mettre en pratique. Pour autant, je ne dois pas m'arrêter. Sinon, j'étais là, je dis, arrête au moins, médite, après on va reprendre. Non, on continue, parce que subhanallah, même si la personne ne médite pas, n'arrive pas à cette étape, le prophète alayhi salatu wasalam dit le hadith que, j'ai pas l'intégralité du hadith en tête, celui qui un matin se lève et il apprend tel nombre de versets, c'est mieux pour lui que s'il avait obtenu telle chose. C'est-à-dire que même si tu n'arrives pas tout de suite à méditer, à comprendre, à le mettre en pratique, ne serait-ce cumule, apprends le Coran par cœur, c'est déjà une chose de récompense. Ou alors quelqu'un va dire que m'écoute plus du tout le Coran, m'y lit plus parce que n'arrive pas à méditer. Là, wallah, ne pas arrêter des acquis. Jamais stopper un acquis quand il est en marche. Continuer et essayer de le perfectionner, faire en sorte que je peux joindre à tadabbur à ma mémorisation du Coran. Il est tellement aisé, à chaque fois que j'apprends mon Coran, il m'y fait 13 lignes par jour, une page, ben, quand j'ai mémorisé, que j'ai terminé, je le lis en français, basse. Tout simplement, et j'essaie de voir est-ce que ça parle des ayats, des signes d'Allah, ça parle de tel prophète, ça décrit le paradis de l'enfer, et je comprends, j'ai une première approche, et c'est la première étape de méditer sur les ayats. Et puis par la suite, c'est juste du temps, on prend tafsir Ibn Kathir ou tafsir en français, on essaie de lire, compléter notre hifz par at-tadabbur, par l'effet de méditer, mais surtout ne pas s'arrêter pour se dire que j'ai zappé une étape, donc je m'arrête, et parce que je dois me concentrer sur cette étape, aucunement. Plus on va apprendre, plus on a des récompenses. Fais en sorte de le perfectionner. Soit d'un mot de code, soit vous faites à chaque fois. Non, mais ça n'a pas regardé, mais un petit secret dessus. Et enfin, pour eux, la plus belle des nuits, oui, c'est en rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était de passer une nuit dans le Qiyam ul-Layl. Oui, Qiyam ul-Layl. Qiyam ul-Layl. Parce qu'ils avaient compris, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, pendant 13 ans, avait fait un travail sur eux concernant le tawhid. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui concernant le tawhid? J'allais vous demander, qu'en est-il pour nous aujourd'hui concernant le tawhid? Justement, je vous retourne la question. Où est le tawhid de notre vie? Wallah musta'an. Dites-moi. Le prophète alayhi salatu wassalam, ce que cette dame dit, c'est haqq, réalité. Pendant 13 années, le prophète alayhi salatu wassalam a travaillé iman des sahaba. Et sans tawhid, sans connaissance de iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa qadri khayri wa sharri min Allah ta'ala wa al-ba'thi ba'd al-maut, sans développer ces thématiques, on n'avancera pas dans la foi, parce que chaque branche de la foi est reliée, et ça c'est une étape qu'on a zappé, cette tawhid. Et juste iman billah, subhanallah, si on consacrait, on avait parlé un petit peu de tawhid dans le mois de Ramadan, mais pardonnez-moi, c'était l'introduction du préambule de l'introduction du tawhid. On a juste parlé des vertus de connaître, d'avoir une approche du tawhid. On n'a pas parlé du tawhid là. Tawhid, c'est parler la relation d'iman et a'mal, l'iman yazid wa yanqus, qu'est-ce qui fait augmenter iman, qu'est-ce qui fait baisser iman, etc. Connaître les noms d'Allah, le lui suffisant dans le culte, dans l'adoration, dans ses noms, dans ses attributs. Tout ça, c'est avancer vers le tawhid. C'est vrai que de nos jours, on est plus focalisé sur les a'mal, sur les actions, mais on oublie l'ossature. La base, c'est l'unicité d'Allah. Ce n'est pas pour rien si dans les deux définitions, hadith Jibril, quand l'ange Jibril demande au Prophète, qu'est-ce que l'islam? An tashhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Premièrement, l'attestation de foi tawhid. Et quand il pose la question, ensuite il va dire les quatre autres piliers de l'islam. Ensuite, quand il pose la question, c'est quoi mal iman? Al iman an tu'mina billah. Il commence là aussi par iman, croire en Allah. Si quelqu'un ne connaît pas réellement Allah, comment est-ce que vous voulez qu'il avance dans sa foi? Quelle concentration il va avoir dans sa salat, dans son tawaf, dans son doua ou kouf arafat? Comment est-ce qu'il va s'éloigner de tous ces péchés que mon frère vient de dire, les fitnas qui nous entourent, si on ne connaît pas qui est Allah, si on ne connaît pas que Allah est Samir, Allah est Basir, Allah il voit tout, Allah entend tout, Allah il est Alim, Allah est Qadir. Si on ne connaît pas notre Rabb, si on n'a pas avancé dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah, dans les aqidah, et toutes les branches, comme j'ai dit tout à l'heure, les branches de la foi sont liées. Si quelqu'un développe iman bil malaika, il devient le meilleur des hommes. Être conscient que les anges inscrivent des péchés et les bonnes actions, être conscient que dans la tombe il y aura tel ange, connaître le monde des malaïkas, ça vous fait prendre conscience de la grandeur, de la puissance d'Allah à travers la grandeur de sa création, les anges qui sont d'une grandeur extraordinaire, connaître les anges qui seront dans le, qui sont gardiens du paradis, d'autres qui sont gardiens de l'enfer. Bref, tout ça, ça augmente l'iman en Allah. Quelqu'un qui développe iman bil yawmil akhir, pourquoi est-ce que quand on parle d'iman billah, il y a tout de suite iman bil yawmil akhir? Parce que ce sont deux choses qui sont liées.
Dans le Coran, chaque fois qu'on parle iman billah, il y a iman billah. Parce que si on dit j'adore Allah, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'au-delà, cette adoration d'Allah, elle est limitée. C'est une adoration d'Allah, soit c'est une tradition, soit c'est culturel, ou alors on le fait sans réellement comprendre. D'où l'importance, vraiment. Il faudrait qu'on arrive à consacrer une partie de notre temps à développer l'aqidah, à développer les 6 branches de la foi. Même si on ne va pas devenir des experts sur les masa'il de l'aqidah, mais les 6 branches de la foi, mes chers frères et sœurs, on a grandement besoin de les développer. Autant qu'on donne du temps pour hadith, les riyadus salihin ou les tafsir ou autre chose, l'aqidah doit être, ça doit être la priorité. Et les sahaba, ils ont eu une tawhid formée pendant ces 13 premières années. Dites-moi, quelle est la seule action qui est devenue obligatoire à Mecca? La salah, c'est après le voyage nocturne. Sinon, jusqu'à là, c'était développer iman en Allah, développer les branches de la foi. Donc, c'est une question pertinente et il faut réellement trouver un créneau, une solution pour développer l'aqidah, les tawhid. Et quand on développe tawhid, ça nous évite plein de péchés aussi. Il y a plein de choses, il y a plein de gens qui font plein de bonnes œuvres, mais ils font des péchés destructeurs. Ils vont faire des actions en relation avec le shirk. Il va voir quelqu'un, dit voilà, aide-moi dans mes telles affaires pour protéger moi contre telle chose mauvaise. Il y a Ari, j'ai été dans un magasin d'éléments, on dira pas de quelle ville, tu achètes des trucs. Il voit une espèce de tableau, il écrit le nom des Ya Hussein, Ya Hassan. Il dit Ya Ari, ça c'est shirk, billah. Ça c'est shirk. Tu invoques Hussein? Tu invoques Al-Hassan, tu invoques Al-Miqdad, tu invoques des êtres humains pour avoir la protection. Ça, c'est shirk akbar. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on a l'impression qu'on est au top, on fait de bonnes œuvres, etc. Mais en même temps, dans notre vie, il y a du shirk partout. Donc, connaître le tawhid nous permet également de connaître c'est quoi le shirk, c'est quoi le fisq, c'est quoi le kufr, et ainsi de suite, pour éviter les péchés. Imaginez que quelqu'un, il est fort, il court, il avance, il court. Marie, tu es dans WhatsApp, là. Il court, ça va partout, mais il ne connaît pas qu'il a des trous par terre. Même s'il est rapide, il est costaud, mais il va se fouler la cheville, il risque de tomber, de chuter. Vraiment connaître arkanul iman, arkanul islam, les limites du shirk, du kufr, ça c'est une priorité pour ne pas faire des erreurs. D'ailleurs, Allah Akbar, on va pas commencer un deuxième thème, dans la ilaha illallah. Dans la ilaha illallah, les savants disent qu'il y a un nafi wal ithbat. La ilaha, yani la ma'bouda bi haqqin, et illallah, sauf à l'exception d'Allah. C'est-à-dire dans la ilaha, c'est rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il y a des gens qui continuent à dire que on est musulman, on fait la salat et tout, mais tout le monde ira au paradis, même des personnes d'autres confessions. Khalas, t'as plus iman, yahi. T'as plus iman. Si tu considères que celui qui se prosterne devant une pierre, que celui qui dit qu'Allah, telle chose, que tout le monde, on est des créatures d'Allah, tout le monde, t'as plus iman. Parce que dans la ilaha, il y a un nafi. Fait en sorte que tout ce qui est voués, tous les cultes qui sont voués pour autre qu'Allah, c'est batil. Et le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Déjà, dans cette petite étape, il y a plein de gens qui se fourvoient, hein, qui se trompent, et qui sortent des cadres du tawhid. Et ça, c'est impardonnable. Et la première mission de tous les anbiya, c'est ani'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Première étape du da'wah, c'est inviter vers l'adoration d'Allah. Et ma lakum min ilahin ghayru, c'est pas juste ani'budullaha. C'est adorer Allah, mais également malakum min ilahin ghayru. Il n'y a pas de divinité à part lui, donc connaître ce qui est char, connaître ce qui est mauvais, connaître c'est quoi vouer le culte. Faire en sorte que le culte soit voué uniquement à Allah et connaître les différentes catégories de ibadah. Ibadah, c'est pas uniquement faire sijda. Si tu as confiance en quelqu'un sur quelque chose de l'invisible, c'est une forme de ibadah également et que tu l'as voué à autre qu'Allah et c'est grave. Quand ça, ouais, le marabout, je sais pas, le bougou dit, écoute, dis-moi, est-ce que les prévisions de cette année, mon commerce, ça va aller ou non? Tu viens de faire le shirk, ya akhi. Après, on vient à la masse du Mans, on donne 1000 euros, on donne la caisse masjid, on fait ça, on dit, en fait, on envoie l'argent pour construire malgré ça. Fais ce que vous voulez, ya akhi, tu as quitté iman. Tu as la conviction que la personne connaît raïb. Ça, c'est grave, d'une gravité énorme, ça. C'est pour ça qu'en plus des amal, on a besoin de connaître le iman. Connaître le tawhid, lui, incidemment. Il y avait une suite, Maï Farouk? C'est tout? Jazakallah khair. On a terminé fort là, sur Tawhid, mais connaître la ilaha illallah, ça c'est la priorité. Quand on accepte le Tawhid de comprendre, je pense que les questions des dames, c'était pour clôturer la séance. Je ne pense pas qu'il y a d'autres questions, ça va aller, Inch'Allah. Peut-être on peut. Vous avez. Après, il y a Mouli Moudjahid, Mouli Hussein, il y a des savants qui sont là, localité, et on a l'occasion. Gardez vos questions pour eux, Inch'Allah. Ils sont aptes. C'est les imams mahalli, l'imam du quartier. Gardez vos questions et faites en sorte, faites le lien que tous les jours j'assiste à un programme. Ça c'est important. Et faites le lien que quand je viens pour par la boulain, apprendre la science religieuse et on obtiendra la récompense de l'étudiant en sciences islamiques. Bon, Baï Farouk, Idjazat.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.